In a perfect world, there would be no villains, no conspicuous manifestations of hate. Athletic excellence would be applauded. Sportsmanship would be the rule. Our heroes would remain heroes forever. If life were fair, then this legend would be lauded in his pursuit of an historic 5th World Wrestling Federation Championship. Instead, he's a fallen idol, America's public enemy number one. The respect abandoned, the legacy bludgeoned and spat upon by a society he feels condones defiance and perpetuates hate. If life were fair, then this mighty champion, this survivor of deception and conqueror of all earthly hells, would surely revel in the championship spotlight. The bright lights wouldn't singe his aura, illuminating a dark, horrifying secret from a distant past. And if life were fair, then this man might still be champion, dancing, flying, showcasing his extraordinary talents to legions of fans. He wouldn't be an athlete betrayed by an unwilling knee, a man surrendering a boyhood dream to search for the lost smile of youth. Is it fair that tonight, even in victory, this champion will be haunted by personal demons whose voices cry out from the dark? Is it fair that tonight this man may rewrite history, yet still incur the wrath of a hostile and unappreciative nation? And is it fair that tonight's special referee is a despised enemy of the challenger? Will vengeance flow ruinous from his biased heart, ensuring that tonight will be the last night Bret Hart ever wrestles in this country again? Life isn't fair, but whoever said it would be? And now, SummerSlam, Heart and Soul.
Bonjour, bienvenue sur spécial dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Ouais, beau petit vidéo ça.
Beau vidéo, encore un titre, hein? Tu chales pas là?
Dans le temps, c'était plus hot.
Heart and Soul, hey, hein?
Parce qu'à ce temps, avant, il y avait personne qui s'en rappelait comme Heart and Soul, c'est SummerSlam 97, c'est pas pareil.
Ah, ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui est pas redondant.
C'est notre podcast!
Des chaises de métal, mais aussi notre commanditaire, Gourou, boisson énergisante québécoise depuis 1999, en vente partout, sauf chez Pepe Yellow.
Encore une fois avec mon matcha. Jamais un sans bon, mon matcha.
Un bon matcha et avec des bons match-up pour ce podcast-là.
Ouh, un match-up pour le match-up?
Oui.
Parfait, ça. Fait qu'aujourd'hui, il y a un SummerSlam Review 97, notre deuxième de trois reviews de SummerSlam qu'on a fait et qu'on va faire.
On pourrait même dire 4, dans le fond.
Festival. En quoi?
On pourrait même dire 4 avec Bash of the Beach.
Dans un certain sens, oui. c'est ça, fait qu'on a ça aujourd'hui dans le podcast. Le podcast, évidemment, qui est disponible sur Apple Podcasts, Balado Québec, Podbean et YouTube.
Oui.
Et j'en passe, puis sûrement sur d'autres choses aussi.
Ah, il est partout, il est international. Il est dans l'Europe, au Japon, partout en Chine. On a un gros fanbase au Japon. Toute la famille de M. Fuji écoute ça.
C'est vrai qu'il était vraiment né au Japon?
Non, pour vrai?
Non, c'était un Hawaïen.
Ben là, t'aurais pu garder le kéfé.
C'est toi qui l'as apporté, M. Fuji. Peu importe, c'est pas important aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est SummerSlam 97, mais avant, évidemment, de parler du pay-per-view, on a des remerciements à faire.
Ah oui?
Mais oui, M. Joël Couturier, pardon.
Ah!
C'est son nom déjà.
Le père de Sean Couturier, c'est ça, non?
J'en doute. On pourrait demander.
On demandera.
Un fan qui nous a écrit sur notre page Facebook de Hand de chaise de métal, qui avait découvert notre podcast avec SummerSlam 94, qui l'a écouté ou qui l'écoute encore en ce moment. Puis on le remercie beaucoup d'avoir fait une marque de confiance comme ça, des beaux mots comme ça, ça nous aide tout le temps à continuer encore plus. Hein, Marc?
C'est vrai. La seule affaire, par exemple, mon Joël, c'est que nous autres, c'est un podcast puis pas un balado. Fait que j'aimerais ça que quand tu nous parles, que tu utilises les mots exacts. Mais sinon, je t'aime bien pareil, mon Joël, continue.
Ah, c'est ça l'avant-chose que le pas caché, c'était pour dire.
C'est ça.
Ça valait la peine.
Ouais, tout ça pour ça.
Puis il m'avait une demande spéciale aussi que je n'aimerais pas, mais qu'on prend ça en note, puis il y a des bonnes chances qu'on le fasse. C'est quelque chose de quand même important dans le monde de la lutte, fait qu'on va sûrement en parler un moment donné, mais on ne garantit rien, mais reste à l'écoute.
Puis Joël, seulement, mais tant qu'elle nous a envoyé un DM, il y a le chandail entre deux chaises de métal qui est disponible. Fait que tu sais, tant qu'elle nous a envoyé ça, c'est seulement un très beau chandail. D'après moi, c'est une des plus belles choses.
Ouais. Oui, ce chandail comme ça, Joël, ça a des DM de Marc.
Oui. Sinon, tu peux nous écrire sur entre deux chaises. Ou c'est ça. Entre deux chaises. Comment ouais. ça?
À la soirée que les présentations sont faites, oui. où on parle le podcast, puis notre commanditaire, puis tout le kit, malheureusement, on peut parler d'une couple de décès qui ont lieu dans le monde de la lutte récemment.
Oui.
On va commencer par M. le Patriot, ancien lutteur de la WCW et de la WWF, évidemment. Entre autres, il a lutté beaucoup au Japon, ce que je sache aussi.
Oui, il a été. Il a été pas mal. Sa plus grosse rivalité, je pense, c'était avec Team America contre Team Canada.
Surtout contre Bret Hart.
Contre Bret Hart. Il n'avait pas été repris par Hogan aussi. Non, c'était pas ça. Hein? C'était
pas pareil.
Ouais, c'est ça.
Puis le monsieur, il s'appelait Del Wilkes, le monsieur qui était le Patriot. On l'a vu à l'épisode avec. On a fait un review à un moment donné, puis il était dedans, me semble, ça se peut-tu?
Ça se peut.
Il était avec Buff Bagwell, justement.
Ouais.
Oh, ben, c'est vraiment plus Buff Bagwell puis le Patriot contre Paul Roma puis Paul Orndorff. Méchant hasard pareil, hein?
Buff Bagwell, tu savais que c'était un ami de Le Tourneur, l'ancien commentateur de WCW?
Non, aucune idée, je savais pas.
Ben oui, c'est un de ses amis.
Non, mais un fun fact, on apprend tous les jours en deux chaises de métal.
Oui.
Puis ça, le Patriot, moi, comme Marc a dit, souvent à la WBF, évidemment, avec rivalité contre Bret Hart, USA contre Canada. Puis un autre fun fact, souvent, tout le monde qui connaît la liste un peu le sait. Mais la toune d'entrée de Patriot est la toune qu'ils ont pris par après pour Kurt Angle.
Kurt Angle, ouais, c'est vrai. Qui a été popularisé par Kurt Angle par la suite.
Ouais, exactement. Puis ça, puis non, évidemment, malheureusement, il est décédé il y a deux semaines. Puis c'est ça. Sympathie à la famille et les amis de Patriot. Et. La poser en paix, mon cher ami patriote.
Oui, et on ne parle pas du drink de la distillerie, là.
Non.
OK, parfait.
Et un autre décès, malheureusement, on a parlé un petit peu plus tôt, on parlait de monsieur le patriote, mais c'est un certain monsieur Paul Orndorff, Mr. Wonderful pour les intimes.
Mr. Wonderful, qui est un de mes surnoms aussi, tu savais?
C'est toi qui l'as donné, je m'en souviens, celle-là.
Ouais, je le prends maintenant, il est disponible, fait que c'est mon nouveau surnom. Monsieur Wonderful.
Il est en bonne main.
Ouais.
Fait que non, c'est ça, il est décédé récemment, vraiment dans les derniers jours, je pense, c'est mercredi dernier, je crois.
Ouais.
Puis ça, c'est un gros morceau de la Golden Era qu'on adore les deux qui est parti. Ouais. Il y a beaucoup de. Évidemment, ça arrivait contre Hulk Hogan. Avec son fameux heel turn qu'il avait fait contre Hogan dans un match, c'était lui, puis Hogan contre Big Johnson et King Kong Bundy.
Ouais.
Et après ça, un match de cage, de Saturday Night's Main Event, qui a eu lieu, qui était excellent, là, le fameux photo finish entre les deux. Là.
Un des meilleurs, un des plus mémorables.
Là. Cage match, oui, ça sincèrement, pour vrai, le of all time, là, pas juste dans les années 80.
Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il aurait dû battre Hogan, mais tu sais. Vu que c'est Hogan, il y a beaucoup de monde qui pense qu'Hogan aurait dû perdre comme bien du monde, mais pour M. Wonderful, c'est vrai que ça aurait été bon pour sa carrière. Qui est un des, je pense que c'était un des bons heels aussi. Là. Il me semble que c'est un très, très, très bon heel.
Ben, il était évidemment le main event du premier WrestleMania, il était dedans.
Oui, c'est vrai.
C'était lui avec M. Roddy Piper, avec Bob Orton dans leur coin, contre Hogan, Mr. T et Snuka dans leur coin aussi. Puis évidemment, il y a eu beaucoup de. Il était à WCW par après aussi. Mm-hmm. Il était dans la famille de Bobby Heenan, dans le temps, la WWF était dedans. Un des seuls gars qui a été renvoyé deux fois de la famille de Bobby Heenan. Mais deux fois, il a quitté les deux fois par lui-même.
C'est vrai, hein?
Puis malheureusement, l'affaire que je me souviens le plus récemment, l'année 2000, là. C'est, ouais. Il a fait un stint à la WCW par après. Il était un des coachs du Power Plant, je pense aussi.
Ouais, ça se peut.
Il y avait un match qui était dedans contre. Il y avait les Natural Born Trailers, il y avait les Filthy Animals, puis il y avait eu un de ses anévrismes. Je pense qu'il était tombé paralysé d'un côté de son corps pendant le match, puis les lutteurs luttaient autour de lui. Là.
Ah ouais.
Ouais, c'est genre, je pense, c'est genre 2000, genre, New Blood Rising, une affaire de même, mais c'est vraiment genre, il est à terre et il paralysait d'un côté parce qu'il y avait, dans les années, il avait fait une maladie pour son bras. Mais tu sais, c'est dans le temps qu'il était en rivalité avec Hulk Hogan, fait qu'il a fait, ben là, moi, je veux pas perdre mon argent puis mon gros push, fait que je vais rester. Fait que c'est l'affaire que, malheureusement, que j'ai jamais traité. Ouais. Puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, il avait un bras plus petit que l'autre. Puis, en tout cas, malheureusement, c'est comme ça que sa carrière de lutte s'est terminée. Mais sinon, mais
oui. Côté, je pense qu'il a été plus populaire côté WCW, non?
Ben non. Golden Arrow, WWF était bien populaire. Là.
Non, mais Golden Arrow, ouais. Mais je le connais bien, mais j'ai pas des grands souvenirs de lui. Ben, il a jamais gagné une ceinture, non? As-tu déjà gagné une ceinture?
Champion par équipe.
Champion par équipe, ouais.
Donc, je te dirais.
Non, hein?
Pas vraiment, non?
Single, non? Il aurait pu.
Ben oui, c'est un gars très solide dans le ring, puis il avait une bonne shape, là, évidemment, dans les années 80. Ouais. Tout le monde avait une bonne shape. Là.
Ouais, mais lui, c'était comme une shape un peu à la British Bulldog, là, si on peut comparer.
C'est d'allure.
Ouais.
Parce que malheureusement, il est décédé lui aussi, fait qu'on a quand même deux gros morceaux. Là, depuis une couple d'années, là, on n'échappe pas à rien dans le monde de la lutte. Il y a beaucoup, beaucoup de décès, mais là, ben, évidemment.
Ouais, mais là, on vieillit aussi.
On meurt tout un jour. Il y a eu la COVID aussi qui a eu lieu, qui a courté bien des vies aussi, malheureusement. Que, ouais. C'est sûr que ça aide pas, mais en même temps, on y passe tout un moment donné, mesdames, messieurs.
C'était très profond.
C'est triste, mais c'est la vie. Fait que, encore une fois, M. Wonderful, Porndorf et Patriot, reposez en paix, messieurs.
Je m'occupe de poursuivre la legacy de ton nom, M. Wonderful.
Oui, fait que, on sait que vous avez beaucoup de heart and soul, vous deux. C'est pour ça qu'on continue ça avec le pay-per-view SummerSlam 97, Heart and Soul. Pas pire. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que SummerSlam Heart and Soul est présenté par Stridex. Ceux qui savent pas c'est quoi Stridex, c'est genre Claire-Acil, mais en anglais. Qui est la 10e édition du pay-per-view. Il a eu lieu le 3 août 1997 en direct du Continental Airlines Arena de East Rutherford, New Jersey.
Ouais.
L'aréna des Devils à l'époque.
Beaucoup de grosses vedettes sur cette carte-là. Vedettes montantes aussi, c'est un peu. Ben depuis un an, depuis 96, je te dirais, là, ça commence à être un changement de garde à WWE, des nouvelles stars qui arrivent avec Austin, le Triple H qui est là, Mankind qui est arrivé avec ses Three Face of Foley. Legion of Doom est encore là. C'était pas leur meilleure époque, là, mais tu avais Bret Hart qui était sa dernière année de WWE, puis Taker qui était dans son prime. Son prime a duré quand même longtemps, je dirais. Ouais. Mais, ouais.
Sinon, tu avais Triple H, Mankind qui ont continué par après, comme deux des plus grandes stars de l'époque en général, évidemment. Là,
avec une bonne chimie entre les
deux. Hein?
Ils ont une bonne chimie ensemble, eux autres.
Oui, c'est. On peut vendre le punch sur, il y a un match plus tard dans la soirée.
Ouais.
Mais en fond, au début de la soirée. Mais non, ça, ils ont commencé la rivalité dans ce temps-là. Puis non, ça, ils ont eu des matchs classiques. Là, moi, je me rappelle très bien encore du Royal Rumble 2000, où il y avait un street fight entre les deux, avec Cactus Jack et Triple H.
Ouais.
Avec Triple H, il y avait un Tom Tax, qui avait un des pédigrés sur les Tom Tax à Cactus Jack.
Évidemment, aussi, il y a eu le Hell in a Cell à No Way Out après. Puis,
Oui.
D'autres matchs aussi assez mémorables entre les deux.
Oui.
Puis ce qui est drôle, c'est que la première victoire de Mankind pour le championnat de WWF, c'était à cause de DX qui a gagné.
Oui, puis non. Pas un peu Stone Cold.
Ouais, t'avais Stone Cold, mais DX était là quand même.
Oui, il était là pour l'accompagner parce qu'il était dans la corporation contre DX.
Ouais,
mais c'est sûr qu'il était là, il était aux abords du ring pour ça. Puis même que Triple H, quand il a gagné sa première ceinture de WWF, c'est lui qui avait battu justement Mankind.
Oui, c'est vrai.
Le lendemain de SummerSlam 99.
Oh!
Avec guest referee Jesse Ventura.
Oui, exact.
Bref, après l'hymne national américain, on a le vidéo d'instruction qu'on a vu tantôt au début du show.
Oui.
Ben, de notre choix, nous autres, là, pas leur choix, eux autres.
Oui, c'est ça.
Puis, au début, je voulais vous l'expliquer, mais pour y faire vraiment justice, je préférais vous le faire écouter, vous faire regarder, écouter sur YouTube ou n'importe quelle plateforme que vous écoutez notre podcast en ce moment.
Une guerre de pays,
puis un secret aussi qui sur Taker, là, qui le surveille de très près. Paul Bearer fait des menaces au Deadman.
Elle demande c'est quoi?
Oui, moi aussi. That's gotta be. Ah, les candidats de la soirée ce soir sont Vince McMahon, Jim Ross et Jerry the King Lawler. Et JR dit qu'il y a un feeling que les ceintures vont changer de main ce soir. Ben oui, méchante prédiction.
Ouais.
Et Lawler dit que Stone Cold va embrasser le derrière d'Owen Hart.
Ouais, c'est ça, parce que là, il y a des stipulations dans à peu près tous les matchs. Là.
Oui. C'est la stipulation qu'on va nommer dans quand le match va être rendu, mais non, évidemment, il y a beaucoup de si je gagne pas, je fais ci, si je gagne pas, je fais ça. C'est fun, rajoute un enjeu de plus au combat.
C'est fun. Ouais, c'est spécial comme pay-per-view.
Parlant de fun, match numéro 1.
Oui.
Hunter Stemsley, accompagné de China, va affronter Mankind dans un combat de cage, Steel Cage. Quelle belle image.
J'aime que sur le VS, ce soit China qui est en avant-plan.
Ben oui, parce qu'elle n'est pas dans la cage, c'est à l'extérieur.
Oh.
C'est à l'extérieur de la cage, dans la photo, tu vois.
Ouais.
C'est bien fait. Et Hemsley, qui est le King of the Ring 1997, justement, il avait battu Mankind en finale, donc la rivalité a commencé. Dans le fond, après le combat que je pourrais que j'avais gagné contre Mankind, il a pété son sceptre dessus, sa couronne, puis il a même fait un pedigree à Mankind sur la tête des commentateurs. Ils ont continué ça à In Your House Canadian Stampede le mois d'après dans un combat qui a duré quasiment toute la soirée. Dans le fond, ils ont lutté c'était pas mal False Count Anywhere, fait qu'ils sont battus pas mal partout dans l'aréna. Même que China s'en est mêlé, évidemment, fait que c'est pour ça qu'on a un match de cage ce soir avec China qui est à l'extérieur de la cage pour pas qu'elle s'en mêle. Et pour ceux qui savent, qui ont écouté de la lutte une fois dans leur vie ou deux, savent qu'est-ce qui s'en vient, que la cage ne change pas grand-chose dans le fond.
Ben oui, puis non, là, parce que l'affaire avec la cage bleue, c'est que les trous sont plus gros, fait que c'est plus facile d'intervenir dans le match aussi. Là.
Oui, je sais, mais dans le sens que la cage, là, en général, là, que ce soit la cage bleue ou la cage qu'on a de nos
jours,
en fait, pour empêcher les gars d'avoir de l'interférence pour qu'ils règlent leurs problèmes un contre un. Okay, bon, tout le temps, ça, dans tous les matchs, ils disent « Ah, moi, je veux un combat de cage, je veux pas que personne intervienne. » Il y a quatre gars qui interviennent pareil.
Mais ce que j'aime de ces combats de cage-là, c'est que c'est le premier, il faut qu'il sorte, tu sais, mettons, de l'extérieur ou ben, par la porte. Fait je préfère ça, moi, au match où que tu dois piner ou une soumission, tu sais, normal. Je trouve que le match de cage devrait être tout le temps être un match... En tout cas, la plupart du temps, devrait être comme ça.
Ouais. C'est parce qu'à ce temps, les matchs de cage, avec la lutte qui évolue, ben, c'est plus dur de faire les matchs de cage que tu n'as jamais rien vu, là.
Ouais, mais
faire des soumissions, ça aide plus à faire d'autres choses de plus dans le match.
C'est quand même excitant de savoir si le gars va sortir ou pas. Quoique des fois, c'est vraiment ridicule que le gars essaie de monter par-dessus la cage quand la porte est juste à côté. Mais
ouais. C'est un autre point. C'est sûr. Et en fond, ce Mankind, dans ce temps-là, il faisait une série d'entrevues avec Jim Ross pendant les Raw. C'est tranquillement pas vite d'expliquer un peu, dans le fond, le Mick Foley, sa vraie vie à lui. Avec évidemment la touche de son passage à Mankind qui parlait l'histoire. Puis ça a fini qu'il a fini par faire un Manable Claw à Jim Ross dans la dernière entrevue. Puis il s'est excusé tout après. Fait que c'est comme ça a commencé tranquillement, pas vite, son turn vers un babyface, parce qu'avant ça, Mankind était purement heel.
Ouais. Il avait une tune très dark. Puis j'aimais bien son entrée aussi où ce que il regardait partout, il regardait en arrière, comme s'il y a quelqu'un qui le poursuivait.
Ouais. Puis justement, Mankind McFoley, c'est un des rares à avoir deux tunes. Une pour rentrer et une pour sortir.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. La première tune est plus dérangée, puis l'autre est plus calme parce qu'évidemment, il a gagné. Fait que là, il est plus calme, il se calme, puis c'est ça.
Puis corrige-moi si j'ai tort, mais il me semble que il a commencé à SummerSlam 96 contre Undertaker dans un ballroom match, non, Mankind?
Non, il avait commencé le lendemain de WrestleMania 12.
Ah ouais?
Tant que ça? Ah ouais, dans le même Sony News, son premier gros match contre Taker, c'était à King of the Ring 96.
OK.
Dans le fond, l'année d'avant.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Il a commencé à 96, non?
Exact, ouais, le WBF, ouais.
OK, c'est ça.
Ouais. Fait que c'est ça. Mankind domine au début Hemsley et demande que la porte soit ouverte, mais c'est China qui la referme. Après ça, il y a un Mandible Claw sur Hemsley, sauf qu'il va vers la cage avec Mankind, fait que ça fait que China peut arriver avec... Son genre de chaîne pour étrangler Mankind à travers les barreaux. Puis China rajoute encore en plus après ça quand que Mankind monte pour sortir. Fait quand il enjambe la cage pour sortir, l'autre elle donne un gros coup de poing d'un gosse. Très plaisant. Je suis sûr qu'il aimait ça.
Mais China, elle a vraiment bien worké le match.
À part un bout à la fin, là, qu'on va revenir là-dessus tantôt.
Ouais. Mais sinon, elle était très impliquée puis c'était le fun.
Après ça, Shades of Owen et Bret Hart à SummerSlam 94 qu'on a vu la dernière fois ici. au podcast. T'as le même spot, une superplex, mais cette fois-ci, c'était Hemsley qui avait fait ça à Mankind.
Sauf c'est un bon. Cette superplex-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a
perdu. Elle était pas autant gracieuse que celle de Brett, là.
Elle était vraiment sur, comme ils ont tombé sur le coin du ring, là. C'est comme s'il avait perdu pied, puis c'était juste qui s'est passé. Ouais. Puis on sait que c'est, ben, ceux qui ont déjà lutté savent que le coin du ring, c'est un peu plus dur, mettons. Il y a moins de
screen.
Ouais, ça a dû faire un peu plus mal. Là. Le bruit était moins intense.
Parce que, tu sais, celle de Brett, c'était vraiment dans les airs, il lève, puis bon, la grosse souplesse. Tandis que ça, c'est genre juste, je te poigne, puis je t'écrase, c'est ça.
Mais tu sais, à leur défense, Brett, puis Owen, Triple H, Mankind, il y a quand même une différence de talent.
Pas dans ce temps-là. Là.
Ouais.
Après ça, Triple H fait un backdrop à Mankind dans la cage. C'est les deux bras en haut de la cage, puis Mankind punch Triple H qui tombe les bijoux de famille, Dredd, ça accorde. Et après ça, on a Mankind qui est à la porte, sauf que malheureusement pour lui, il y a China qui pousse l'arbitre et qui ferme la porte à la tête de Mankind. Oui. Donc, c'était pas un violent comme écrasage de cage. En même temps, c'est, je comprends, Mankind il a sûrement dit « Bon ben,
ouais.
Vas-y, go for it, ramasse-moi comme si ta vie en dépendait. »
Puis il s'est même pas protégé, il s'est mis à la tête première, la cage. Tu sais, la cage en plus, c'est quand même solide. T'as entendu, on entend un bruit, mais c'est pas un bruit fake, c'est juste la tête là.
Puis en plus de ça, lui, il porte un masque sur sa tête en plus.
Ouais.
Les barreaux, de la cage sur son masque et sa tête. Ça...
Je sais pas si t'as remarqué, la cage, là, elle bougeait pas mal. Là.
Ouais, quand même.
Parce que, me semble, celui de 94, la cage, était, on dirait qu'elle était plus solide, peut-être pour faire des spots, mais on dirait que celle-là, elle s'éloignait du ring comme si elle était mal placée. C'était bizarre un peu.
Peut-être. Peut-être que Mankind était tellement plus corpulent que la cage a comme pas le choix de donner un peu de plus de lousse.
Mais malgré qu'il était quand même en shape à cette époque-là. Il était
Comparativement aujourd'hui, en effet. Ouais. Et après ça, on a Triple H qui essaie de faire un pedigree sur une chaise que China met dans le ring pour donner ça à Hunter. Puis qu'évidemment, le fameux spot qu'on connaît tous, là, pedigree, ça marche pas. Slingshot. Dans China, qui était monté sur la cage de l'autre bord.
Elle-même, par la table, on sait très bien que c'est le slingshot qui s'en vient.
Puis après ça, Mankind a fait un double arm DDT sur la chaise en question.
Ouais.
Après ça, il a monté au top pour sortir, sauf que China est arrivé dans la ring pour essayer de sortir Hemsley. Sauf que c'est pas son cue pour sortir Hemsley. Fait qu'Hemsley, il a dit hey, non, je suis correct, va-t'en. Puis elle est sortie. Elle a l'air un peu niaiseuse dans le sens d'aller l'aider pour sortir tout de suite. Là. Mais c'était pas son cue, c'était pas son spot. Dans ça, dans l'autre, on sait, nous autres, que si c'est pas ton spot, essaye pas.
Non.
On a notre match de CT, puis si tu le scrapes, tu vas l'entendre parler.
Oh.
Et oui, c'est après ça, Mankind, il monte pour sortir de la cage. Sauf que rendu, savant qu'il dépose les pieds pour sortir, il y a une pensée dans sa tête, M. Mick Foley. Puis il veut faire imiter, en fond, la fin du match qu'il a vu en personne lui-même. Le 17 octobre 83, au Madison Square Garden de New York, un match de cage avec le Magnificent Don Morocco qui a affronté Superfly Jimmy Snuka.
Ouais.
Et après le match, il y a Jimmy Snuka qui a monté sur le top de la cage pour faire son Superfly Splash à Morocco. Genre, c'était pas Tamina.
Ouais, d'ailleurs, il n'a jamais vraiment montré à sa fille comment faire ça, je pense, parce qu'elle l'a jamais réussi.
Ouais, il est occupé à faire d'autres choses, je pense.
Ouais.
À la cour. Évidemment, après ça, Mankind, il déchire son chemisier pour montrer un cœur. Ben, en théorie, je pense qu'il est un peu sué, fait que ça a comme effacé le cœur, mais il semble avoir un gros cœur ici pour représenter son personnage de Dude Love. Et après ça, il a fait un elbow du top de la cage. Et c'est là, après ça, qu'il a monté pour sortir pendant que China était dans la ring à tirer Triple H pour la porte. Ouais. Mais malheureusement pour Hunter et China, c'était Mankind qui est tombé en premier pour gagner le combat de cage.
Puis tu sais, ça, c'est une fin qui marche avec un gars comme Mankind, Mick Foley, qu'il aime ça prendre des high risks. Un peu Jeff Hardy qui le faisait aussi quand il y avait des cage matchs. Mais tu sais, n'importe quel autre lutteur qui n'est pas genre de ce style-là, c'est totalement ridicule qu'il retombe en bas. Puis que... En tout cas, moi, quelqu'un qui fait ça devrait perdre le match. Hein.
Ben, tu parles de qui, mettons, qui aurait manqué sa shot, maintenant?
Ben, mettons, même s'il l'a et qu'il remonte, moi, je répète que China glisse Triple H puis le fasse sortir en premier parce que t'as pris un risque inutile, là. Tu sais, pour te le match, mais en même temps, c'était pas ça la storyline, mais
Ça, je suis d'accord avec toi s'il manque. Là. S'il manque, oui, c'est sûr, tu fais ça, que Chandler en arrive pas le sort, mais s'il gagne, je vois pourquoi ça ferait ça. Là.
Je sais pas, non, mais c'est parce que tu as un manager en plus qui est là, puis en tout cas, je sais pas, c'est bizarre. Là. Tu prends un risque utile. Là.
Ouais, au PDP, il aurait pu sortir par la porte. Là.
Ouais, mais le China était là aussi, en tout cas.
Ouais, même année, l'arbitre s'est dit, ah, ça va faire, là, maintenant, arrête de. Peu importe, c'est là, pas...
C'était probablement une des seules victoires de Mankind contre Triple H.
Pas gagné souvent contre. Non, pas tant. Oui, vite de même, je ne ferais pas te dire. Ils ont eu des, genre, moins de 10 matchs au moins contre l'autre facilement. Là. Ça, c'est ça, pas incluant les tag matchs et les six-man tags à faire de même.
Ouais, c'est ça. Mais avec toutes les bombes qu'ils prennent, c'est un peu dur de gagner un match.
Ouais, c'est ça. Et la chanson de Mankind, arrête, c'est une toune disco qui part. La chanson de Dude Love, un de ses toiles, Alter Ego. C'est drôle en plus parce que genre, il tape du pied en bas, il tape du pied.
Après ça, il danse puis il arrête de même.
Ouais, sur les acclamations de la foule. Puis c'est ça, fait qu'un combat de cage très solide et un très bon opener.
Ouais. Puis Dude Love, Dude Love, ça vient de la jeunesse de Mick Foley, qui c'est un de ses premiers personnages qu'il faisait quand il était pas connu. Là.
Ouais, mais c'est en Dude Love qui avait sauté du top de son.
Sa main. Ouais. Puis, lui,
c'est
un fan de Shawn Michaels, si je me trompe pas, ça se peut-tu?
Oui, il disait qu'il voulait s'en venir.
Bref, il était pas beau, mais il voulait que le monde l'aime.
Ouais, mais c'est ça.
Ouais.
Fait que après ce soir, le face turn de Mankind est officiel.
Ouais.
Statut qu'il va garder pour pratiquement toute sa carrière à WWE.
Pretty much.
Tu vois, quand il était heel, la foule l'acclamait pareil parce que c'est Mick Foley.
Puis en dude là, il a gagné ceinture par équipe avec.
Stone Cold.
Quand même,
ouais. Un mois plus tard, à Raw, il y a eu un match entre Foley et Triple H qui ont fini leur rivalité dans un street fight mythique, comme dirait Dave. Un street fight entre les deux. À un moment donné, il y avait un segment avant le combat, c'est les trois faces de Foley qui étaient sur le même écran géant en train de se parler.
Ouais, ok.
Puis ça a fait l'arrivée en scène de Cactus Jack, première fois le WBF qui était là, qui a eu un match de street fight contre Triple H. Match qui a gagné avec un pile driver sur une table. Évidemment, c'est la première apparition de Cactus Jack à la WWE. Puis c'est un des bons moments classiques de Raw, avant Attitude Era, mettons.
Ouais. Finalement, c'est de trouver l'autre victoire de Mick Foley contre Triple H.
En bleu. Après ça, on a un segment Interview Time avec Todd Pettengill, les Headbangers, c'est Gorilla Monsoon. Et la gouverneure du New Jersey, Christy Todd Whitman. En fond, c'était elle qui a baissé une taxe qui a permis à la WWF de revenir pouvoir lutter dans les environs à New Jersey.
Ouais, ça faisait 8 ans qu'elle n'avait pas été là.
Ouais. Puis en gros, elle fait une petite promo, puis il redonne une ceinture, la ceinture classique de WWF Champion en guise de commémoration de l'événement. Pas rien d'autre à rajouter vraiment là-dessus, là.
Je me demande si c'est ce segment-là ou l'autre d'après que j'ai trouvé le plus long, mais quoi que l'autre d'après était plus divertissant pour les yeux. Mettons. On va dire ça de même.
Alors après ça, on nous montre Tiger Ali Singh dans la foule avec son père Tiger. Et lui, là, quand on parle des pires lutteurs ever, là, il est dans la liste.
Ouais.
Il était dégueulasse. Puis, c'est suivi d'un court recap d'un beach party qui a eu la même journée dans l'après-midi. Quelqu'un avait un signe marqué Sonny is hot. Ben d'accord.
D'ailleurs,
oui.
Vu qu'on parle de Sonny,
t'es
tagué sur quelque chose cette semaine sur Facebook.
T'es pas le seul qui me tague l'affaire de Sonny tout le temps.
Elle cherche un partenaire.
Je cherche des co-stars pour ses vidéos, on va dire ça, poliment érotiques.
Elle fait des vidéos érotiques?
Ben, elle fait son OnlyFans.
Ouais, puis finalement, tu vas participer?
J'ai pas parlé encore, mais ça s'en vient. On va mettre les images sur le podcast, s'il vous plaît.
Si jamais ça arrive, ça, on va se faire un Patreon entre deux chaises de métal, puis ça sera disponible là-dessus parce que YouTube ne laissera pas diffuser ça.
Non, tu trouveras un nouvel animateur, ben je vais rester avec elle.
Ouais, mais hey, c'est pas la même photo qu'elle traîne depuis 10 ans. Là.
Non, c'est exactement ça. Pas une once de graisse de patates frites dans ces shorts-là. Bref, match numéro 2.
Ouais.
Bulldust, ça combien de Marlena, affronte Loose Cannon, Brian Pillman Et pour la première stipulation de la soirée, si Pillman perd, il doit lutter dans les prochaines semaines en robe jusqu'à temps qu'il gagne un combat de lutte.
Ouais.
Puis, pour un petit rajouter ça à cette affaire-là, les stipulations, là, ça vient d'une personne, malheureusement, qu'ils ont fait ça. C'est Bret Hart qui a fait une stipulation. C'est par après ça que tout le monde a renchéré avec leur stipulation. C'est Bret qui a parti le bal avec la Hart Foundation et Shawn Michaels a fait une prédiction.
Oui, c'est vrai. Puis, petite parenthèse, vite, vite de même, le garçon de Brian Pillman, qui a signé officiellement la AEW cette semaine, parce qu'il était pas encore, il était encore sous contrat avec une autre fédération.
Oui, à la MLW, je pense.
Oui, fait que là, un de mes tag teams préférés. Fait que,
Marcy Brown, ben oui, ils sont bons.
Ils sont maintenant signés, puis ben hâte de voir. J'espère qu'ils vont gagner un championnat dans les prochaines années.
Il y a des chances. Fait que c'est ça. Fait que l'histoire entre Pillman et Goldust est reliée avec Marlena, évidemment, qui est déjà en couple avec Pillman dans les années 90 au début. Puis ça, pendant que les deux étaient à la WCW en même temps que Dustin aussi.
Ouais.
C'était insinué dans storyline, dans storyline comme quoi que la fille de Goldust et Marlena était peut-être pas d'elle, mais de Pillman. C'est racheté de la psychologie pour le heel.
Ouais.
Mind games. Après ça, on a Pillman qui pourchasse Marlena à l'extérieur du ring. Il reçoit une clothesline de Goldust de l'autre bord, tu sais, le fameux spot de la personne qui est à dos du ring, puis le gars l'attend au bord avec un clothesline.
Ouais, puis quand le réalisateur de l'émission ou du pay-per-view s'est bien fait, tu vois pas que l'autre est l'autre bord, puis il apparaît dans ton écran.
Ouais, tu vois juste une tête qui sort, puis il va faire un clothesline. le match est pas très bon, pour être bien honnête avec vous autres.
Là. Non.
Puis le finish arrive quand Goldust fuck up un sunset flip. Puis dans le fond, il est comme. On dirait que. Dans le fond, il dit qu'il fuck le mot, mais c'est comme Pillman qui était un petit peu trop loin, je pense aussi.
Ouais.
Puis ça fait un gros struggle, ben long, au moins une dizaine de secondes, là, pour qu'il se rende à la corde.
Ouais.
Quand il s'est rendu à la corde, il a reçu un coup de sacoche de Marlena d'en face. Dans sa coche, il y avait une brique, évidemment.
Ouais.
Il n'y avait pas ses papiers d'impôt, certains. Après ça, il a renversé le sunset flip et il a réussi à le faire pour le compte de 3. Avec quand même un gros pop de la foule, quand même.
Ouais, absolument.
Goldust était très over en ce temps-là.
Ben, c'est un des meilleurs personnages ever qui a été créé, selon moi.
Oui, pour vrai. Un des plus controversés aussi, évidemment.
Ouais, il était précurseur là, avant son temps, si on veut, avec tout ça, ouais. Avec son personnage.
Et puis, fait que ça, maintenant, il permet de lutter avec une robe dans les prochaines semaines.
Ouais, puis je me souviens de ces rats-là. ben, tu sais, c'était la stipulation la plus évidente qui allait arriver, selon moi. T'sais, toutes les autres stipulations, c'était comme, ouais, OK, peut-être, mais celle-là, c'était sûr, certain que c'était Pillman qui allait perdre. Tu sais, Goldust en robe, personne n'aurait. Tout le monde aurait fait comme, ça fait peut-être Goldust. Non. Mais vu que c'est Pillman, c'est comme, oh my god, Pillman n'a jamais porté de robe.
Là, ouais. Quand il porte une robe, on a fait ça, ça se peut-être à NW aussi.
Ouais, c'est vrai.
J'étais dans le match.
Oh, boy, c'est vrai. Tabarnak.
Ouais.
C'était pendant notre match à nous autres. Hein, on était en équipe dans ce temps-là. Hein.
Non, c'est juste on était ensemble, mais c'était juste un match en simple qu'on était là. On n'aimera pas l'adversaire, mais.
on salue les Hollywood Aces.
Aces, on dit.
Ah, ok.
Enfin, c'est un mauvais match. Dommage que le match n'ait pas lieu. 3-4 ans avant à WCW, parce que ça aurait été vraiment écœurant, mais regarde. Pillman, il était pas en top shape parce que une couple d'années avant, pas, genre une année avant ça, il y avait eu un accident de moto très grave, ce qui était quasiment failli se faire amputer la jambe, quasiment.
Ouais. J'ai pas de super souvenir de Pillman quand tant que lutteur, moi.
Ben, WCW, années 90. Ouais, il faisait des bons matchs là, contre des Johnny B. Bad, puis Alex Wright, puis les gars de même. Justin Thunder Liger aussi, il faisait des bons matchs contre. Là.
Il va falloir reviewer un show de lui parce que pour vrai, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mon plus gros souvenir de Pillman, c'est sur la rivalité avec Austin.
Ah, ouais, qui avait l'autre qui avait cassé la jambe avec la chaise.
Ouais, c'est ça.
C'était malade. Puis le fameux Pillman a un gun.
Ouais, il avait été dans la maison d'Austin, si je me trompe pas, c'est ça?
Ouais, exactement. Non, mais la maison
de Pillman. Contraire.
Ouais, il avait sa jambe dans son plâtre, là, puis mais il y avait des gars qui étaient. Austin avait pété pour se rendre dans la maison, le petit.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était bon, ça.
Ouais, ça dépend de quel côté de la médaille que t'es.
Ouais, c'est ça.
Et le mois suivant, à In-House Ground Zero, Goldust et Pillman se sont affrontés encore une fois dans un match qui s'appelait le Indecent Proposal Match. avec un interlocuteur Robert Redford. Puis, dans le fond, l'affaire, c'est cette fois-ci, c'est que si Pillman gagnait le combat, c'est lui qui avait une situation de son côté cette fois-là. S'il gagnait le combat, il y avait un mois avec Terry comme esclave, ben Marlena,
ouais.
Terry Reynolds. Puis pendant le combat, évidemment, à la fin, ben, ils ont fait quasiment le contraire de SummerSlam. C'est Pillman qui a pris la sacoche de frapper Goldust d'en face avec. Fait qu'il a fait qu'il a gagné le combat. Puis évidemment, il faisait des promos avec elle dans son lit en l'écœurant. Il avait changé de look complètement. Là, il avait les cheveux noirs, puis des gros linges un peu gothique un peu. Là,
puis, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours aimé Marlena comme manager.
Elle savait ce qu'elle avait à faire.
Ouais, c'est comme lutteuse moins, là, c'était pas des grands matchs, mais comme manager, elle était un peu bizarre, mais tu sais, ça va être Goldust aussi, là.
Ouais.
Mais peu importe ce qu'elle faisait, je trouvais que il y avait du bon heat quand elle était là.
Ouais. Puis le prochain twist de la storyline était censé arriver après les 30 jours qu'il était avec elle. Il était censé d'avoir Goldust et Marlena qui étaient pour refaire leur mariage en direct à ouais. Puis la façon que c'était pour se passer, c'est que Pillman était pour interrompre la cérémonie avec le fameux si quelqu'un ne veut pas qu'ils se marient ensemble, qu'ils disent tout de suite ou qu'ils se taisent à jamais.
Évidemment, un mariage de lutte, ça finit jamais bien.
Ouais. Puis il était pour attaquer Goldust de dos puis le faire saigner. Genre vraiment, vraiment legit, là, vraiment genre un bloodbath. Là.
OK.
C'était genre le sang était sur la robe de Marlena. Puis il était pour faire déclarer son amour à Pillman puis partir avec. C'est comme quoi que dans les 30 jours qu'il était avec elle, elle a découvert qu'elle l'aimait et qu'il
y avait
un plan pour fourrer Goldust.
Puis ils ont de repasser sur l'angle?
Ben, je veux dire pourquoi, mais ça aurait été malade en crise, ça aurait été nice.
Ouais.
Mais malheureusement, la raison pourquoi ça s'est pas arrivé, c'est que avant la fin des 30 jours, alors de 35 ans, M. Pillman est décédé.
Oh!
Il était dans un ensemble d'hôtel avec une overdose. Puis, non, ça, il y avait une maladie du cœur qui était de naissance, là, que son père avait eu aussi, qui est mort comme ça aussi, son père. Là.
Est-ce qu'il savait?
Je pense que oui.
Probablement, ouais, ce qui est héréditaire, de toute façon, ces affaires-là.
Il y avait une maladie d'alcool, une maladie de cœur, puis évidemment, avec le. Le gars, il y a eu un accident de moto très grave, puis il a failli se faire quasiment plus à la jambe, fait qu'il était ses painkillers vraiment beaucoup, puis l'alcool, puis évidemment. Pas un mix fatal, là, on se le cache.
Classique débuteur.
Ouais. La même maladie qu'avait tué son père et mon père.
À 35 ans,
hein,
c'est ça?
Oui, ouais. Ils l'ont trouvé mort ensemble d'hôtel. Puis c'était la même journée qu'il y avait un pay-per-view, le pay-per-view Bad Blood.
Ouais, je me souviens.
Il était censé lutter contre Dude Love, justement. Puis non, malheureusement, c'est comme ça qu'il est décédé. Puis c'est pour ça que la storyline avec Goldust n'a pas eu lieu. Mais plus tard, après ça, il y a. Leur plan B, c'était que Goldust dompte Marlena lui-même.
Là. Ouais, ils l'ont fait.
Une storyline qu'on avait parlé un peu dans notre Survivor Series 97 sur YouTube avec Alfredo.
Ouais. D'ailleurs, Alfredo était supposé d'être là, mais.
Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé.
J'ai oublié d'en parler en début d'épisode, mais tu sais, vous savez, ceux qui suivent le podcast, vous savez qu'Alfredo n'est pas jeune, fait qu'il est allé se faire opérer pour ses cataractes. Fait que de retour bientôt.
C'était-tu à Shawinigan qui était?
Ouais, exactement.
Parfait.
Un petit joke plate
d'Alfredo. C'est un joke qu'il pourrait dire à son âge.
Ouais, c'est vrai.
Après ça, on a un record d'assistance pour la WWF au Continental Airlines Arena avec 20 213 personnes dans la foule qui dit Vince McMahon, tout content.
Ouais.
Après ça, on se transporte vers le match numéro 3. Un match par équipe avec les Godwins qui affrontent Hawk Animal et Legion of Doom. T'es pas prêt?
Oui,
hein?
Ouais,
t'es prêt. Wow. Les Godwins qui sont ill maintenant, on sait vraiment, on voit qu'ils sont ill parce qu'ils portent la salopette, mais pas de chandail en dessous.
Ouais, c'est vrai.
Vraiment, en face, ils portent un chandail tout en dessous.
Les Godwins qui ont déjà été managés par ta Dulcinée.
Oui, ben, elle a managé bien du monde dans ces temps-là, on va te dire.
Elle se promenait avec les ceintures, elle.
Oui, mais oui, elle faisait Lou Albano d'elle-même.
Ouais.
Un petit peu plus cute. Un petit peu.
Ouais,
un petit peu. Et en plus, c'est un grudge match, ça, les Godwins contre LOD, parce qu'il y a eu un incident en avril 97 dans un combat pour Shotgun Saturday Night avec les Godwins contre LOD, où que pendant LOD ont fait leur Doomsday Device à M. Henry Godwin, ben, il est tombé sur son cou. Il s'est fracturé la vertèbre C7 dans son cou. Mm-hmm. Puis les docteurs ils ont dit qu'il devait se reposer 15 semaines, puis après, il est revenu après 8. dans le temps, les lutteurs, hein, c'est ça, l'orgueil, puis faire de l'argent, passer avant leur santé.
Ouais. Phineas Godwin, qui était le plus niaiseux, le plus épais des deux Godwin, là, par ailleurs.
Ouais.
Dans Storyline.
Ce qu'ils savent pas, c'est devenu Midian par la suite.
Et voilà.
Mais avant ça, il y avait leur fameux tag team Southern Justice avec Jeff Jarrett.
C'est vrai.
Ouais.
En marque. On n'oublie pas le Naked Midian aussi, hein.
Non, non, c'est sûr. ouais, fait que dans les semaines qui ont suivi par après, les Goldwins ont attaqué l'Odeck avec des buckets, ben en fond leur gros saut de slop,
ouais.
De ferme.
Ils aimaient bien Godwin,
hein? Ben, ça dépend. Il était
cool. Avait leur place, là.
Ouais, il était correct. C'est un tag team qui était correct.
Gimmick tag team.
Ouais. Puis pour rajouter insulte à l'injure, ils ont fait un reverse DDT, en fond le slop job d'Harry Godwin sur la barricade à Hawk, il a. Il a splitté la tête pas comme un melon. C'est J.R. qui a dit ça. Fait que je répète ce que okay, Jim Ross a dit. Après ça, on est backstage maintenant avec les Road Warriors. Hawk dit que ça se termine ce soir au Meadowlands. Et la revanche va être votre enfer. Les Godwin dit Animal. Attends, on prend une petite corrige.
Oh, what a rush!
Oh, what a rush! Okay. Ouais. Et Lawler dit ici que les fans aimeraient que LOD passe leurs épaulettes aux Jets de New York, comme ça ils pourraient gagner plus de matchs. Quelque chose qui était relevant en 87 qu'il a encore aujourd'hui.
Comme quoi ça n'a pas changé.
Les Goldwins ont une double souplex à Animal qui tombe sur ses pieds et qui les close-line en même temps, un beau spot. Après ça, on a Henry qui s'envoie lui, Animal, en bas du ring, avec un running close-in à la Mick Foley, tu sais, le fameux, où les deux sortent en bas du ring, puis l'autre donne un gros en tout cas.
Ouais, ouais, ouais. Bon,
t'as compris. Et oui, ça a ouvert la porte à Hug et Pig, Henry O. Godwin et Phineas I. Godwin. Elle est bonne, elle est bonne. Et après ça, beau travail des Godwins pour couper le ring en deux.
Oh,
ah! C'est un tag match, t'as pas le choix.
Les auditeurs sont ils m'écrivent dans message de texte.
Qui ça?
Les auditeurs, ils finissent son ring en deux. Je sais bien, j'essaie de le convaincre, mais il ne veut pas.
Des affaires qui mourront jamais, mesdames, messieurs.
OK.
Ça dégénère après le hot tag à Hawk. LOD tente le Doomsday Device à Henry Godwin encore une fois. Faut que Phineas pousse Godwin hors de la prise, mais malheureusement pour lui, il reçoit un diving close-line de Hawk la troisième corde par après. Et après ça, les LOD font un spike pile driver à Monsieur Henry Godwin, direct sur son cou. C'est terminé pour la victoire de LOD. Animal et Hawk avec une belle victoire au SummerSlam 97.
Puis dans ces années-là, le pile driver était pas mal à la mode. Il y en a eu dans le match avec Triple H aussi, puis Mankind, il y en a eu dans ce match-là. Il y en a un autre qui s'en vient qui ne fera pas du bien aussi.
C'est vrai, en parlant de ça, il fallait que je te l'envoie, je ne l'ai pas fait.
Bien, bien déçu.
J'ai pas dit mon dernier mot.
Bref,
c'est ça. Un match très correct. Je m'attendais à payer que ça.
Ouais, moi aussi, mais non. Comme je te le dis, j'ai rien contre les Godwin. Puis LOD, ben, c'est LOD. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Pas niveau talent, mais ce qui représente tout. Look, character, Legion of Doom, c'est un no-brainer.
T'es encore
avec nous autres,
ouais. Ouais, c'est parce que je cherche l'affaire, là. C'est ça, mais maintenant, on est rendu au meilleur segment de l'histoire de SummerSlam à vie.
C'est quoi?
Dans les semaines précédentes, il y avait un concours avec la chance de gagner $1 million en direct à SummerSlam. Les deux personnes qui ont gagné le concours sont un jeune homme de 12 ans et un homme à la fin vingtaine qui ressemble à Stone Cold.
Ouais, ça c'est selon le commentateur.
Il a pas de cheveux sur la tête, puis il y a le goatee d'Austin.
Ouais, mais il a plus l'air d'un.
Hey, t'as-tu vu ça quand ils ont montré des images, là, qu'ils montraient sur le journal, là, sa face, là?
Ouais.
Il disait fan losing sleep over wrestling contest, là, puis tu vois sa face, on dirait quasiment un serial killer, là. Juste la face de même, puis pas de sourire, rien. ils sont là ce soir pour leur chance. De gagner le $1 million, les chanceux.
Fuck le million, ils ont eu bien plus que ça.
Et pour faire le maître de cérémonie, on a Todd Bedingill qui est là. Il est accompagné de pas une, mais deux demoiselles, Sable et Sunny. Et voilà, wow!
Sunny Days!
Bon, oh, je ne regarde pas à bonne place.
Macaroni! Ouais, hein, Todd s'est fait pogner les yeux dans la lettre-quille.
Hé, hey, mesdames, messieurs, là. En 97, c'est ça, c'est dans le pay-per-view-là?
Ouais.
J'avais 11 ans, mesdames, messieurs.
Ouais.
Disons que, oui, c'est ça. Bref, c'est ça.
Disons que le matelas n'a pas duré longtemps.
Non, non. Je l'ai changé souvent quand j'étais jeune, mon matelas. Bref. Ouais.
D'ailleurs, la plupart de ces magazines ne sont plus réutilisables.
J'ai rajouté tout, c'est pour ça. Pas pour rien, là.
Moi, je veux. En tout cas, il faudrait que tu te maries avec Sonny.
Never know.
Si jamais ça arrive, je suis prêt à. Aller faire mon. Pas un cours pour être prêtre, pour maître de cérémonie. Là.
Ben, sûrement. Tu pourrais faire ça. Enfin, tout le monde peut faire ça sur Internet. Tu pognes un permis et la titre d'attente.
Do you say 3 minutes?
Pourquoi Rick Bischoff? Ok. C'est ça, ouais. Après ça, il y a un petit tableau avec 100 chiffres.
Ouais, on va remettre ça en attendant.
Merci, c'est gentil. Il y avait 100 chiffres sur le tableau, puis ils ont demandé au petit jeune de 12 ans de choisir la clé qu'il voulait en premier. Il a pris la clé 52. Et après ça, le Stone Cold version Wish a pris la clé numéro 13.
quel segment interminable! C'était long, là!
Ça aurait pas été de Todd et Sonny, là. Ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment plate.
Ouais, parce que Sable est belle, mais pas mal juste belle.
Ben, pas juste ça, là. En tout cas, moi, c'est une question de préférence personnelle, là. Mais en 87, si tu regardes ce segment-là, tu regardes les deux d'un à côté de l'autre, là, la star là-dedans, c'est Sonny, là, c'est pas Sable.
Ben oui, Sonny est bien plus entertainer. Ben oui. C'est Sable, on l'a vu, là. Tout ce qu'elle sait faire, c'est prendre sa ceinture puis danser.
Are you guys ready for the grind?
on ne parle pas trop parce que Brock et son ponytail vont nous péter à la gueule.
Oui, il a copié mon style de cheveux.
Ouais, c'est ça. Mettons.
Hey, j'ai le droit. Puis ça, en fond, avant ça, il faut qu'ils. C'est chiant pour eux autres parce qu'eux autres qui ont été choisis et qui ont eu un concours par tirage, il faut qu'ils attendent après ceux qui appellent au téléphone. Fait que
c'est long, ça.
Ouais, fait que c'est Todd qui s'occupe de faire les appels. Le premier numéro de téléphone ne répond pas.
Hey, tu fais-tu vraiment un review de ce style d'affaire-là?
Pourquoi pas? Au pire, mets ça en attendant. Vaut juste moi et ma face pendant que je parle de ça.
Oh my God, je trouvais déjà ça long quand c'est arrivé.
J'ai voulu, okay. C'est ça? Ouais. Ok, je vais faire une long story ouais, short.
Vas-y.
C'est le fun, on a du fun.
Ouais, parle pour toi.
Hey. Fait que c'est ça, fait que la personne qui téléphone, mais ils disent « Ah, t'as regardé le pay-per-view? » Non, je regarde pas le pay-per-view, ma compagnie de câble le prend pas. C'est fun. Puis, je faisais la clé 33. Après ça, Sonny tente d'aller ouvrir le gros coffre-fort avec le million dedans. Et la clé ouvre pas le coffre-fort. Fait que malheureusement, monsieur qui est au téléphone n'a pas gagné. Ça, même chose pour l'autre personne au téléphone mais qui a pris le numéro 14. Même chose, c'est Sable qui a essayé d'ouvrir le coffre-fort qui n'a pas marché. Et après ça, c'est au tour du monsieur de 12 ans de faire son choix. Et sa clé ne rentre pas dans
le... T'as-tu dit le monsieur de 12 ans?
le jeune homme de 12 ans.
OK, parfait.
Et sa clé n'a pas marché. Et après ça, il y a un gros hug de Sable. Puis après ça, la meilleure ligne que Todd Pellinger a dit, c'est que tu sais peut-être pas aujourd'hui, là, mais c'est meilleur que $1 million, ça. Avoir un hug de Sable.
C'est vrai.
Ben, c'est vrai. Il aurait pris tout de suite.
Tiens.
Ouais, il est un peu flou, mais voyez, le Sable est là.
Flou, là. C'est les images d'archives que tu as trouvées vite pendant que TJ nous parlait de cet interminable.
Regardez le Stone Cold de Wish de toute beauté.
Oh.
Et c'est ça, fait que malheureusement, son gros de Wish non plus n'a pas gagné. Pour ça, celui qui a fait le concours, ben, il a dévoilé que la clé qui était gagnante, la clé numéro 3. Puis ça, le coffre s'est ouvert et malheureusement, pour ceux qui ont tous fait le participer au concours, ben, il n'y a personne qui a gagné $1 million.
Ouais, on s'attendait vraiment à ce que quelqu'un gagne.
Non. En tout cas, meilleur segment ever. Merci, Sonny.
Ben, pas juste Sonny.
Ben. Surtout Sonny. Là.
Il y avait Todd aussi. Tiens.
Ouf. Ah, c'est PG, ça, ou c'est pas PG?
Pas PG, c'est ça. On a le droit de montrer ce qu'on veut, on n'est pas censuré. Des gars, des femmes, regarde, moi, c'est les photos de Tatanka en Bobette, on peut pas avoir des photos de Sunny et Sable. Là. Hein?
Parfait. Fait que c'est ça. Fait que, merci beaucoup de ce beau segment-là, Taker.
Yeah, yeah. On est en train de faire 3 minutes là-dessus. Parfait.
Ben, c'est parfait, c'est le fun.
Ben oui, allez voir ça pour les jeunes garçons de 12 ans, ça vaut la peine.
Oui, en effet. Assurez-vous que c'est 97, pas 2017, parce que vous avez des surprises. Match numéro 4. Oui. Ken Shamrock affronte le British Bulldog dans un combat pour le championnat européen. Il y a une autre stipulation. Si le Bulldog perd, il va falloir qu'il mange une canne de bouffe à chien en direct à la télévision.
Chose qu'on a vue il y a quelques années avec Roman Reigns contre, je ne me souviens pas c'était qui par exemple.
King Corbin!
Ah oui, le gars qui fait rien, puis que. C'est ça.
Hey, hey, hey. Il est dans le bazar, c'est en site. Il a tout perdu, OK? C'est pas le temps de l'écœurer. Il est sur Cameo aussi, s'il vous plaît, l'encourager.
Il pourrait se mettre avec Sony, tu sais, personnes qui ont tout perdu.
Ils n'ont pas rien, ils n'ont pas tout perdu, il y a encore mon admiration, les deux.
Ouais, c'est ça le problème.
Le mois dernier à Raw. Les deux ont un bras de fer. Reviens-en. quand Shamrock était sur le bord de gagner, le Bulldog a donné un gros headbutt puis il a frappé ça avec une chaise. Puis pour ajouter l'insulte à l'injure, le Bulldog a mis de la bouffe à chien partout d'en face. C'est chien, ça.
Ouais.
Évidemment, Shamrock est en crise, fait qu'il fonce au ring. Une belly to belly en partant et Davey Boy Smith se regroupe en bas du ring. Il renverse la vapeur avec une souplex verticale, tu sais, c'est son trademark puisqu'il garde vraiment longtemps dans les airs. Là.
Ouais, ouais.
Et l'action se transporte devant la table des commentateurs. Body slam du Bulldog qui prend une poignée de Dr. Balor pour lui déracher dans la face à M. Shamrock. Et M. Évidemment, Shamrock prend ça plutôt bien, évidemment, comme il fait tout le temps. Puis il a collé une volée.
Shamrock, je trouve qu'il était sous-estimé.
Hey, il était over, là, Ken Shamrock.
Non, il faisait vraiment une bonne job. Puis le pop de la foule dans ce pay-per-view-là, il fait juste crier. Quand il fait juste son genre de « la foule.
Get out of my way!
La foule était en feu. Ça, c'était-tu. Là, j'ai un problème avec l'histoire. Moi, des fois, j'ai de la misère à associer les avant-après. Tu le sais, là, j'ai toujours un an en retard ou un an en avance. Mm-hmm. Il avait-tu fait son match contre The Rock pour Intercontinental à ce moment-là?
Le match avec le finish qu'on aime, là.
Ouais.
C'est faire après ça.
C'est après, hein?
C'est Rumble 98.
Est-ce que ça, c'était-tu le début de son. De sa wave, si on veut, ou ça avait commencé bien avant, non?
Non, Shamrock, c'est ça qui est. Dès le début, c'est ça son affaire. C'est que
c'est
un gars qui snappait n'importe quand, là, puis qu'il était. Tu sais, dans le fond, il avait encore sa mentalité de UFC à la WWE. Ouais. C'est son story arc de son personnage à lui, là.
Pour le temps, la UFC, c'était populaire, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Fait que c'est encore, la transition est encore mieux.
Il a pris la canne de bouffe à chien, puis il pétait la tête sur la tête du Bulldog.
Ça pour vrai, une couple de fois, j'ai fait comme, bon, il a peut-être ouvert, parce que c'était quand même assez solide. Hein.
Ouais. Après ça, Shamrock pousse le referee. En fond, évidemment, aussi, le coup de avant qu'il pousse l'arbitre, il y a le coup de canne de chien, ça fait le DQ, malheureusement. Puis après ça, Shamrock a poussé l'arbitre une couple de fois pour ensuite faire un sleeper à Bulldog avec les jambes alentour de la hanche puis tout pour qu'il ne bouge pas. Puis il l'a gardé pendant au moins une bonne minute. Là, tu voyais le Bulldog qui devenait mauve, bleu.
Il changeait de couleur.
Ben oui, il changeait de couleur. Mais pour vrai, là, on dirait quasiment qu'il était sur le bord de passant. Puis évidemment, après ça, après 1 minute et 15 officiels plus tard... Il a pogné tout le monde avec des belly-to-belly suplex. Patterson, okay. Briscoe, quoi.
Mention honorable à Pat Patterson. Quel bum!
Patterson.
Il était évidemment moins vieux à l'époque, mais il était quand même en... Il luttait plus, là. Il était quand même un peu bedonnant, mais quel bum! Wow!
Il y avait Patterson, il y avait Briscoe qui a mangé une belly-to-belly suplex. Il y avait l'arbitre Jack Dawn et un de tes préférés, Kiki.
Ouais. Oui,
qui a mangé une belle blé souplex de Shamrock aussi.
Ouais.
Les refs, eux autres, ils n'avaient pas le choix de faire des beaux bumps à la grosseur qu'il y avait.
Tu voyais que ceux qui ont mangé les bumps, c'était des vétérans, ceux qui savaient vraiment, ouais. Là, pas n'importe qui.
Ouais. Puis après ça, la foule est en délai avec Shamrock qui crie comme un défoncé. Get out of my way! Fait que évidemment, l'angle de la fin était écœurant.
Ouais, c'était pas le plus grand match, mais c'était
Le match avant était pas mal juste correct sans plus. Là. C'était, c'était juste là. Mais des fois, c'est comment tu finis qui est important.
Ouais.
C'est ça que moi, on se rappelait le plus. Et par la suite, le Bulldog a rendez-vous avec Shawn Michaels à One Night Only le 20 septembre dans son patelin en Angleterre. Ouais. Un match controversé que Shawn a gagné. En fond, Davey Boy Smith était censé gagner le combat, même qu'il avait dédié sa victoire à sa sœur atteinte du cancer qui était dans la foule. Sauf que Shawn, qui voulait faire chier Brett backstage, avait convaincu Vince de le faire gagner la ceinture contre le Bulldog. Une heure avant le gala, la décision a été dite au Bulldog qui était démoli. Là. Il savait pas comment réagir, puis évidemment, il a fait le job parce que c'est un professionnel. Là.
Ouais.
C'est pas mal ça qui a détruit à jamais sa carrière, puis après ça, il a jamais été le même après ça. Là. Ça l'a comme. Évidemment, c'est quand tu fais de quoi en pensant tout le long que tu vas gagner, puis tu dis le match à ta soeur qui est malade du cancer. Ben...
Yes, Shawn.
Fuck you, Shawn Michaels.
Go ahead. C'est un vrai coup de cul.
Parlant de Shawn Michaels, justement, interview time avec Todd Pettengill et le Heartbreak Kid lui-même. Mm-hmm. Pettengill lui demande s'il va mettre sa carrière en jeu juste pour être quitte avec Brett. Shawn lui répond que c'est pas nécessaire, il le fait parce qu'il le fait en masse backstage. Il n'a pas dit ça avant tout. Il a dit désolé, il n'y a rien entre lui et Bret Hart. Ce qu'il y avait avant entre les deux était réglé à WrestleMania quand il l'a battu. Hein? Pendant.
Ouais, c'est ça.
Puis tout ce qu'il avait à régler à WrestleMania est correct, puis qu'il est là pour être juste impartial comme arbitre de ce soir. Ouais. Après ça, dans la catégorie des choses qui passeraient pas aujourd'hui, on voit un petit recap vidéo du Gang Warfare de 97 avec la Nation of Domination, Los Barriquas et les types de l'Apocalypse.
Ouais, une bataille de gang.
Fait qu'en gros, Farouk avait renvoyé Crush et Savio de leur de la National Domination, la première faction qu'ils avaient faite ensemble. Ils ont fait chacun leur groupe par après, avec Savio Vega qui a fait le leader des Los Barriquas, et Crush qui était le leader du type d'Apocalypse, des motocyclus.
je vais mettre dans le podcast, je vais mettre la chanson des Los Barriquas parce que ça me fait trop rire.
Et tu peux mettre aussi le VS aussi. Mírame los ojos cuando digas mi nombre. No me confrontes si no eres un hombre. Tato, yeah. Represento mi Boricua. No te me pongas bravo, caerás al fin y al cabo. Soy más bravo como el gallo borinqueño haciendo batalla. Gritando.
Lola?
Ben, tu l'as pas fait. Ouais, ça sent bien.
Ok,
check. T'en mettras tantôt juste pour le faire.
Ok.
Fait que c'est ça, fait que évidemment. Les Africains-Américains contre les Latinos contre les motards. Hein. Ça passerait bien aujourd'hui, ça?
Ben, oui, dans le fond.
Non, pas vraiment.
Pourquoi?
Ben, parce que, là, peu importe qui gagnerait, ceux qui perdraient diraient, ben, c'est raciste, là, ou vous êtes contre nous autres. Puis, tu sais comment c'est aujourd'hui, là? Des snowflakes, là, messieurs, comme dirait Dave.
Je trouve que tu cites pas mal Dave. Il est pas là pour se défendre.
Ben là, je cite les affaires qu'il dit, j'ai pas dit que c'était right or wrong. Là. De l'encens, le maître des quiz. Ben de retour la semaine prochaine au podcast.
Oui.
C'est le temps, là. Match numéro 5. Un combat 4 contre 4 avec les Los Barriquas qui affrontent les types d'Apocalypse DOA. Dans le fond, les Barriquas, c'est Savio Vega, le leader, avec Jesus Castillo, Miguel Perez et José Estrada Jr. Et les types de l'Apocalypse sont l'équipe composée de Crush, leur leader, avec Chains, qui était, on l'a vu récemment, en 1994, avec Taker, contre Taker.
Ouais.
Et maintenant, sous le nom de connu de Chains, et Skull et 8-Ball, les Harris Brothers.
Tu sais, quand on riait des noms de Retribution récemment, là.
Ouais.
Chains, 8-Ball,
là. Nice. 8-Ball contre T-Bar, ça serait pas pire.
Ouais, ça serait un méchant match.
Mais là, pour maintenant, un des moments qui m'a fait le plus marqué de la soirée, les Barriquas vont saluer les commentateurs espagnols avec évidemment Carlos Cabrera et Tito Santana. Arriba!
Arriba!
T'as marqué que c'était lui?
Ben oui.
Ok, c'est bon. C'est pas ça.
Quand même.
Mais, Puis aussi, j'aimerais ça faire un petit shout-out à la personne dans la poule qui avait une pancarte qui était marquée « Nice ass crush
». J'ai pas vu ça.
Bah, ça m'a fait bien rire, mais OK.
Tu vois que le match était intéressant quand tu vois cette pancarte-là.
Bah, à leur défense, j'ai vu ça au début, là, okay. Avant que le match commence. Là.
Mais avoue que le match n'était pas tant intéressant.
Donc. J'y arrive, mais oui. Miguel Perret, il est poilu en crise. Hein?
Ouais.
Donc, après, il y a beaucoup de chaînes dans la foule de Shave Your Back, un chaîne qu'ils ont repris par la suite pour A-Train. Après ça, on a Savio avec un beau spinning heel kick dans le coin sur Skull. Puis voici la Nation of Domination qui arrive de la foule Shield Style.
Ouais.
Puis ils sont représentés par leur leader, Farouk, qui est Ron Simmons de APA. Avec évidemment D'Lo Brown qui est là. Kama Mustafa. Un des préférés de Mark.
Oh yeah!
Et Ahmed Johnson aussi. Ahmed Johnson, plus gros que jamais.
Controversé, ça, Ahmed Johnson.
Il regarde l'action d'en bas du ring. Quel match plate!
Oui.
Ça, Chains reçoit la warm tag. Il domine les Los Boricuas jusqu'à temps que tous les 8 opposants brawl ensemble dans le ring, évidemment. Classique. Mm-hmm. Et Chains se retrouve en bas du ring et frappe Ahmed Johnson qui faisait rien pantoute. Puis lui, il réplique avec un gros... dans le fond, il voulait faire un genre de pile driver, mais ça finit en gros river plunge. En tout. C'était bizarre. Ouais. Puis il avait enlevé le spécial de Razor Ramon. Il a enlevé le tapis du matelas en bas. Là. Puis il a fait ça sur le concrete.
Ouais,
puis, ça lui, on a profité pour monter Chains dans le ring pour faire le compte de 3 pour faire gagner des Boricuas. C'est pour ça que tout le monde s'est battu après. Puis Crush avait passé le monde avec sa moto. Bref, c'est ça. Match vraiment plat, pas bon pantoute.
Ouais.
C'est quoi à rajouter?
J'ai rien à rajouter, on en reparlera à la fin.
Parfait. Après ça, on a un package vidéo sur la rivalité entre Owen Hart et Stone Cold Steve Austin. Dans le fond, au In-Rouse Canadian Stampede le mois d'avant, Owen Hart avait piné Stone Cold dans le fameux match 5 contre 5.
Ouais.
Un des très bons main event de 1997.
Mm-hmm.
Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'était un 5 contre 5 qui était à Calgary, en Alberta. Puis c'était dans la Hart Foundation, Owen, le Bulldog, Bret Hart, Night Hart et Pillman, qui a affronté l'équipe de Team USA avec LOD, Ken Shamrock, Goldust et Stone Cold Steve Austin. Belle brochette.
Ouais, c'est pas bien pareil.
C'est un excellent match. Pour vrai, mais le pay-per-view New House Canadian Stampede, là, c'est un des bons pay-per-view de WWE ever. Là.
Peut-être qu'on fait un review à un moment donné.
Pourquoi pas, c'est un des vraiment... s'il y a un show là, qui n'est pas genre les shows connus... Là,
qui n'est pas sur votre radar.
Qui, ouais, puis qui vaut au moins 8.5 de comme fiche, là, mais minimum, là, c'est celui-là. Mais bref, on va voir maintenant.
On va vous en donner des petits shows de même des fois. Ça sort un peu des trucs que tout le monde connaît. Là.
Ouais, c'est ça. Maintenant, SummerSlam, Rumble, tout ça, c'est le fun, mais c'est pas les in-house random, c'est le fun aussi.
Ouais, il y en avait des bons.
Puis Austin avait déclaré qu'à SummerSlam, une autre stipulation que ça en vit, s'il il gagnait pas le convoi, il était pour se mettre à genoux et embrasser le derrière d'Owen Hart.
Ouais.
Puis cette stipulation-là devient plus importante plus tard.
Le début du Kiss My Ass Club?
Non, mais ça a vraiment rapport à la fin, là, pourquoi ils ont fait de certaines choses de certaines façons.
Ah, non, je sais bien, mais...
Ouais. C'est ça. Fait que match numéro 6 pour le championnat intercontinental, le champion défendant, le King of Hearts, oh, je ne sais jamais comment l'appeler, Rocket ou le King of Hearts, en tout cas, Owen Hart affronte son cours Steve Austin avec le championnat intercontinental en jeu. Et évidemment, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, si Austin perd le combo ou gagne pas contre Owen Hart, de n'importe quelle façon, il va devoir embrasser le derrière du Rocket.
Ben, si jamais tu ne sais pas comment l'appeler Owen Hart, tu peux l'appeler le meilleur des Hearts.
Le Rocket de King of Hearts est suffisant.
Parfait.
Le meilleur des arcs s'appelle Bob Brett. C'est correct, ça? Après ça, on a Michael Cole qui est là, c'est l'interview Austin, qui l'envoie chier et qui le pousse. Comme on aurait, tout le monde devrait faire encore aujourd'hui.
Ouais.
Et Owen Hart a attaqué Austin à la jambe pendant qu'il faisait ses quatre coins là, avec les bras dans les airs. C'est de courte durée quand Austin lui fait son loot express pour gagner une coupe de punch dans la face.
Hey, puis
le match
Austin,
est oui?
Austin dans ce temps-là. Là.
Ah, il était ça à coche.
T'sais, même ceux qui n'ont jamais vu Austin lutter à WCW, là, allez voir des matchs là, parce qu'il y a eu des matchs solides. D'ailleurs, il y a un match que. Là, te lance ça de même. Là. Il y a un match que je peux faire à un moment donné, c'est avec Stunning Steve Austin. Il y a Sting aussi dans une cage à WCW. On s'en reparlera, là, mais...
Un Wargame, je pense.
Ouais, c'est un Wargame qui m'avait marqué à l'époque. Mais Austin, là, allez voir ses vieux matchs avant qu'il devienne The Big Deal, mettons. Là.
Ouais.
Il a toujours été un très bon performeur. Désolé. Ben, pas vraiment désolé.
Puis ça te concerne juste tout, mais je t'ai envoyé la petite vidéo. Là.
Oh yeah.
Ouais, fait que ça, fait que Austin, le match est pas mal back and forth pendant un bout. Là.
Ouais.
Puis Austin a renversé un Rick'n'Runner en powerbomb pour un compte de deux. Ça, c'est un beau spot. Mm-hmm. Après ça, Owen a essayé de se faire counter out. Mais Austin, il a tourné chercher à l'extérieur du ring parce qu'il avait un compte à l'extérieur du ring. Fait que Austin n'a pas gagné le match. Fait qu'il faut qu'il embrasse derrière de Owen Hart parce que c'est important.
Ben oui.
Et après ça, c'est un bon spot psychologique au match. Par la suite, il y a Owen qui travaille le coup de Stone Cold. On sait que par la suite, ça rentre en ligne de compte, là, malheureusement, sans le vouloir.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et après ça, on sait tout le spot qui s'en vient. Austin pogne Owen Hart en genre de... Il veut faire un genre de sidewalk slam, sauf qu'Owen le renverse. Fait qu'il réussit à le pogner en position de Tombstone. Sauf que malheureusement, Owen Hart a tombé, au lieu de tomber sur ses genoux à l'Undertaker, il est tombé assis sur ses fesses.
Ouais, puis à noter qu'avant le match, Austin avait demandé à Owen, t'es sûr que ce spot-là, on peut le faire? Parce que là, Owen dit, ben oui, je sais comment faire ça, ce move-là. Austin dit, ok, je te fais confiance, c'est un Hart, puis finalement, ouais. C'est drôle qu'il ait demandé avant, puis que finalement, il l'ait moffé.
Non. Fait que. Résultat, dans le fond, la tête d'Austin était entre les jambes d'Owen un peu trop profond.
Ouais, que, on le voit assez, on va le voir ici, là, mais on le voit assez que son cou, ça écrase sur le mat.
Ouais. Puis, c'est évidemment, sur le coup, Austin est paralysé, il sent rien du coup jusqu'en bas. Mm-hmm. Puis, c'est épeurant, là. C'est tout pour lui, là. En plus, il y avait des doutes tout le long avant le match qui était.
Mais je me souviens très bien, moi, à cette époque-là, d'avoir écouté. Je me souviens dans ma tête d'avoir écouté ce pay-per-view-là. Puis, tu sais, j'avais pas remarqué non plus que c'était. Tu sais, dans ce temps-là, on y croyait, mais en même temps, pour nous autres, ça n'arrêtait jamais la lutte. Là, tu sais, je veux dire, c'est des professionnels et tout. Puis, je me souviens du small package. Après, j'avais fait comme, voyons, le match était bon. Pourquoi ça finit de même? C'est bien. Là, je le voyais, c'était mou. J'étais comme, voyons, pourquoi c'est mou de même? Mm-hmm. Ça, c'est à l'époque où on n'avait pas vraiment Internet et qu'on ne savait pas. Là.
Mm-hmm.
Fait que, ouais, c'était hyper rare quand ça regarde ça.
Ouais, fait comme tu viens de le dire, ben ça, Austin était sur le coup, il a dit à l'arbitre Hebner de dire à Owen de laisser du temps parce qu'évidemment, il était là pour s'arranger pour quelque chose. C'est ouais. Là l'affaire que je te dis que la stipulation est importante dans le sens que. Tu peux pas faire qu'Owen pin Austin ou qu'il arrête le match pour faire gagner Owen Hart parce qu'il faut qu'il l'autre embrasse son derrière.
Ouais, c'est ça.
Storyline. Fait que si maintenant il n'y a pas storyline là, puis c'est juste un match normal, il peut faire bon, ben le match est off, ou bien Owen pin Austin, puis c'est tout. Là.
Ouais.
C'est ça qui est plate avec la stipulation du match, que, qu'ils ont. Ils ont pas, ils voulaient bien faire, mais en même temps, c'est pas de leur faute aussi. Là.
Chose que je me souviens pas, c'est qu'Owen a embrassé le cul d'Austin après.
Non, c'est juste. Quand je dis la stipulation, c'est juste une personne qui a cette stipulation-là.
Ok, ouais, c'était juste Austin qui devait le faire, si jamais.
Exactement,
oui. Ok.
Parce qu'au Owen Hart, dans le fond, il mettait sa ceinture en jeu, fait qu'il perdait sa ceinture contre le l'embrassage derrière. Fait que c'est comme...
Je sais qu'Austin en a parlé souvent par après, il a été longtemps fâché contre Owen Hart.
Oui.
Évidemment, là.
Des mots là-dessus tantôt, évidemment, aussi, pour ça, mais... Fait que ça, comme t'as dit tantôt, ben, Owen Hart, il a donné la foule un peu, avec des chaînes de Canada, puis d'en faire la même. Ce qui a permis à Austin, tranquillement, pas vite, de ramper vers Owen pour y faire un roll-up pour le compte de 3.
Ouais.
Puis, dans son kick-out aussi, Owen Hart, pour avoir l'air tough, mais c'est quand même un roll-up fait, avec kick-out un peu. Puis, ouais. En dégageant, il a encore fait plus de dommages au cou d'Austin parce qu'il a comme dégagé avec ses fesses puis il a comme accroché le cou d'Austin.
Ouais.
Je sais bien, mais c'est un, le gars, déjà, il sent déjà plus rien. T'sais. Ça arrive vite aussi, là. Comme tu as dit aussi, tu as dit bien des affaires avant que je le dise aujourd'hui, c'est pas bon.
Ah, je sais, je m'excuse.
Tout dans la journée, en discutant avec Owen, Austin, Owen avait dit qu'il voulait faire un tombstone à Austin, puis il a dit, ok, tu vas tomber sur tes genoux comme Taker. Non, je tombe assis. Non, tu vas tomber assis. Non, tu vas tomber sur tes genoux comme Taker. Non, je vais tomber assis. Là, vous avez, bon, OK, là, bord, tu sais, parce que il savait qu'Owen, c'était un genre world-class athlète, puis que c'était un professionnel, puis il avait beaucoup de respect pour la famille d'Owen Hart, puis évidemment, il a lutté contre Brett par avant ça aussi. Fait qu'il a dit, OK, c'est bon. Puis en même temps, Owen Hart, c'était un prankster, fait que peut-être qu'il s'est dit, bah, peut-être qu'il me fait une joke, là, peut-être qu'il dit ça, mais dans le match, il va faire tomber sur ses genoux, puis c'est juste un rib de même pour le fun, là, si seulement.
Ouais, c'est ça.
Puis, par après, comme tu Austin, il n'est pas vraiment pardonné à Owen Hart tout ça. Même que, tu sais, c'est sûr qu'évidemment, après le décès d'Owen, il n'a pas eu le choix de tourner la page, là, mais disons que c'était pas mal tendu parce qu'Owen Hart, quelque chose qui m'a quand même surpris. Je pense qu'il y avait honte de ce qui est arrivé plus que d'autres choses, mais en même temps, tu sais. Ouais, il avait parlé à Austin, genre, une fois, genre, au téléphone, d'attitude. C'était très court. Cool, puis je pense qu'il s'en est jamais remis mentalement, je pense, Owen là-dedans.
Non. Ben, c'est vrai qu'Owen, après, n'a pas été le même non plus. Hein.
Mais pas nécessairement ça, là, mais je parle vraiment, genre... Tu sais, comme tantôt, on parlait du Bulldog, qui était plus le même après que...
Ouais.
Pendant la même affaire pour Owen, là, disons que ça lui a comme donné un méchant choc, là.
Ouais, je pense pas qu'Owen voulait le blesser, là. C'est un chic type, fait que... Ouais, dommage pour ça, puis dommage pour... Parce qu'il aurait pas avoir d'autres matchs entre les deux, là. C'était quand même un bon match, là, selon moi. Là.
Ouais. Puis, disons que la raison principale de la carrière d'Austin qui était courte de même, c'est ce match-là.
Ce match-là, oui.
Parce que non seulement ça, après ça, il a changé son style complètement. Parce que, tu sais, on connaît Austin par après comme le brawler avec des street fights et des batailles dans la foule. Mais avant ça, c'était un gars, tu sais, il faisait un peu du brawling, mais c'était un gars très technique aussi, là.
Ouais, il était capable de faire bien des affaires.
Il était genre balancé partout, il était well-rounded, là. C'était genre un lutteur parfait quasiment, là.
Ouais, mais par contre, il a quand même fait d'excellents matchs par la suite.
Oui, puis c'est ça. Fait que là, pour ce qui est du combat, ben c'était bon. Le match était excellent jusqu'à temps que le fuck-up de la fin.
C'était quand même la fin, là, fait que c'est pas super.
Ouais. L'affaire, c'est qu'il y avait au moins. Par après, ils ont dit qu'il y avait genre au moins 5 minutes de plus au match de planning. Là.
Ouais.
Ça a coupé court à ce plan-là. Mais en même temps, le match est pas mal secondaire après à cet incident-là, malheureusement.
Ouais, ouais, ouais. C'est plus important la santé. Là.
Ouais. Puis Austin va venir dans le ring prendre sa revanche contre le Rocket à Montréal là, au Survivor Series en novembre 97, 3 mois plus tard.
Mm-hmm.
Un autre show qu'on a vu avec Alfredo, évidemment.
Ouais, on en a fait des shows, hein. Nous autres,
On est rendu quasiment à 2 ans d'expérience là.
Attendez, c'est pas fini, ça sent bien. Ça va être encore meilleur cette année. En 2022, on vous réserve des petites surprises, des petits chefs-d'œuvre.
On est comme un bon Merlot. On vient meilleur avec l'âge.
OK, laisse faire le Merlot, puis passe au prochain.
Ben là, Merlot, c'est bon du Merlot?
Non.
Il est différent avec Marc Merlot. Vidéo recap par la suite, raconté par Todd Bellingill sur la main event de ce soir. Le Hitman avait promis que s'il ne gagnait pas le titre ce soir à SummerSlam, qui était pour plus jamais lutter aux États-Unis, puis dans son chemin, se retrouve malheureusement pour lui, The Undertaker, le champion défendant.
Mais?
Oui.
Ah
oui. C'est pas toi non plus. Shawn Michaels lui a décidé de donner le special guest referee du combat. Il a dit que s'il montrait du favoritisme à Undertaker, lui non plus pourrait plus lutter en sol américain.
Bon.
Et évidemment, Britt n'a pas vraiment aimé ça, évidemment. Il s'en est même pris à Vince en s'envoyant avec style de bataille d'hockey. Je suis en train de parler de ça à la tête. Là. Et après ça, il y a Brett qui a perdu contre celui qu'on a nommé au début du podcast qui est décédé récemment, le Patriot, à cause de Shawn Michaels à Raw. Puis c'est ça, pour ajouter un peu d'intrigue sur les intentions de Shawn Michaels au pay-per-view de ce soir. Puis toutes les trois de quoi à perdre. Qui va triompher à suivre? Et après, l'opinion des commentateurs qui donnent leur choix sur le match de le main event. Match numéro 7 pour le championnat WWF, le champion défendant The Undertaker affronte l'aspirant numéro 1, Bret The Hitman Hart, avec comme un bit spécial, le Heartbreak Kid Shawn Michaels.
Beau
chapeau. Il y a avec. Désolé. Puis, les situations qu'on connaît, si Shawn n'est pas impartial, ben il lutte pas aux États-Unis. Puis si Brett perd, il lutte pas aux États-Unis non plus. Si on a un micro de Brett qui demande aux fans de respecter l'hymne national canadien, Il dédie sa victoire de ce soir à tous ses fans à travers le monde qui détestent les États-Unis autant que lui. Et après ça, Taker a réussi à affronter la tempête de Brett pour prendre l'avantage en travaillant sur le dos du Hitman. Ça, Vince nous dit en commentaire que Stone Cold est maintenant rendu à l'hôpital et qu'on n'a pas d'update sur lui. De checker ça demain à Raw pour plus de détails. Après ça, on a HBK qui fait une bonne job en réprimandant les deux lutteurs également. Après ça, Hart traverse la vapeur avec des attaques sur la jambe droite du Deadman. Il a un figure four sur Taker et voilà Paul Bearer qui arrive dans l'entrée. Avec ça, Taker, aussitôt qu'il le voit, il prend un gros zoom sur sa face et il est en tabarnak. C'est bien hot comme il en prie sur le tour. Fait, oh mon maudit, toi.
C'est le fun de voir Taker aussi dans son prime rapide.
Oui.
Ouais, c'est vraiment cool à voir. Taker, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu lutter dans ces années-là, allez voir parce que c'est un lutteur totalement différent. Évidemment, il était plus jeune aussi, mais très athlétique pour un big man.
Oui. Sa grande force.
Oui.
Et après ça, évidemment, quand il sort du figure 4, ben, il va voir en bas du ring Paul Bearer, puis Chris une volée.
Ouais.
Ben là, c'est bien hot. Il a fait un punch à Paul Bearer, puis il a fait un bump, genre, revenant à l'autre bord. Là, c'est écœurant, là. Après ça, Bret Hart a fait le figure 4 dans le poteau. C'est écœurant, ce spot-là. Là.
Ouais, vraiment.
Après ça, au retour de Owen et de Pillman d'arriver dans l'entrée. Au bord du ring, voir l'action. Le Phenom va les saluer avec des bonnes droites d'en face.
Une droite de la gauche.
Oui. Sean chasse les deux intrus, mais dans le ring, Taker fait un chokeslam à Brett. Il le couvre, sauf que Shawn Michaels est occupé à regarder les autres partir. Son slash faire à semblant qu'il ne va pas le
pire. Ouais,
mais c'était bien fait, c'était bien worké pareil là, pour le storyline du match. Puis après que Bret Hart a dégagé. Non, c'est vrai, il n'a pas eu le temps de dégager, c'est l'autre qui s'est juste arrêté la prise. Fait qu'il était... il l'a pogné par le collet. Ben, après ça, Bret Hart a profité pour faire un roll-up. Et contrairement à WWE d'aujourd'hui, c'était pas la fin du match. C'est que qui a dégagé. Avantage Bret par la suite avec un flying clothesline de. Non. Bret a avantage par la suite. Flying clothesline de Taker, son classique. En tombant dans les cordes, son rebond. Et après ça, un chokeslam du tablier du ring jusque dans l'arène. C'était un. Je sais pas qu'on voyait pas souvent Taker dans ce temps-là.
Non, c'est vrai.
Oui, après c'est un compte de deux pour ça. Un sharpshooter sur Taker, mais qui a réussi à s'en sortir. Le premier à avoir été hâte de le faire à la WWF. Oui, c'était la première fois que quelqu'un a fait le sharpshooter de Bret Hart de cette façon-là. Oh, il a vraiment, genre, il était dans le sharpshooter puis il a comme poussé Bret avec ses jambes pour qu'il aille à l'extérieur du ring. Vraiment un bon spot de Big Man.
Yes.
Après ça, comme tantôt, il fait son figure 4, mais là, c'est rendu. Il fait le sharpshooter sur Bret. De Bret fait un sharpshooter à Taker dans le poteau. Sauf que quand Taker se défait du move, Bret tombe sur Sean qui est en bas du ring, puis ça fait que Sean est blessé à la jambe.
Oh, non.
Hey, suis-tu beau comment que c'est fait, tant des fois à lutte?
Ah, c'est
bon. Pour ça, Bret en profite pour aller chercher une chaise, pour donner un coup à la face à Taker non protégé.
Oh là, je suis là.
Ouais. Puis. Après ça, Sean arrive tranquillement pas vite en boitant, fait le compte de 1, 2, et non! Taker dégage! Un très beau false finish. La foule, il a vraiment cru.
Je pensais qu'il allait faire comme oh, oh.
Je suis sûr qu'à l'époque, en plus, j'y avais cru en esti aussi. Là.
Ouais, toi, tout ce qui comporte Brett, tu y crois tout le temps.
Ouais, ouais. Hey, monsieur Tatanka Luger, là, on regarde une petite gêne quand même.
Tu regardes juste tes reviews de match, là, puis ça prend. Brett, c'est le plus long, hein, on sait bien.
Parce que Brett, ses matchs, ils ont plein d'affaires importantes. C'est pas des Godwins contre LOD, ceux-là.
Wow. C'est chiant pour les Godwins.
Ben là, c'est vrai aussi, là, come on. Bref, c'est ça.
Pretty cool.
Oh. Ouais, c'est ça. Parce que Sean va voir la chaise dans le coin. Puis là, il va voir Brett. Il dit, c'est toi qui l'as frappé avec la chaise, c'est toi qui l'as mis dans le ring. Et évidemment, Brett plaide son innocence. Et Sean, il croit pas. Il dit, non, c'est tu l'as avec la chaise. Fait que Brett se tanne, puis il crache dans la face. Brett, sa bouche. Fait que Sean est en tabac.
C'est un cracheur, Brett, hein?
Oui, c'est pas juste le meilleur dans un ring, dans le côté cracheur aussi, il est très fort.
On salue ses petites copines asiatiques.
On salue les fans de cracheur.
Oh,
calice. Fait que Sean en a assez. Il swing la chaise sur Brett, sauf que malheureusement, un spot que tout le monde a vu venir aussi, c'est Brett se tasse, c'est Taker qui reçoit le coup de chaise Brett d'en face. qui permet à Brett de faire le compte. Fait que Sean, évidemment, il veut vraiment pas, il est dans la barnaque. Fait que là, c'est hot parce que Taker est quasiment sur le bord du ring. Fait qu'il faut que Sean, pour faire le compte, glisse en bas du ring. Quand il fait son compte, il y a Brett qui le regarde dans la face avec un gros smile. C'est écœurant. Et c'est assez pour le compte de 3 nouveaux champions de la WWF, Bret Hart, pour la 5e fois.
Ouais.
Et sa dernière aussi.
C'est ça. Hey, tu m'as volé mon. Je vais le dire pour la 5e fois. Tu me voles tout le temps, mais. Je t'en ai.
T'es arrivé 20 fois, tu m'as volé des punches dans le podcast. À mon tour de le faire de temps en temps aussi. Bref, Taker pour chasse. Oui, vas-y quoi?
Ah, ouais. Taker pour chasse, Sean.
Oui, exactement. Hard Building, en Bourgeois le Vert.
Ouais.
Donc, Léon a fait de la Heart Foundation, vient voir Brett dans le ring pour célébrer avec lui. Mm-hmm. Et pendant que la foule lance des débris aussi, c'est toujours le fun quand on voit ça. Là.
Mais là, à ce moment-là, je pense que quand il était aux États-Unis, Warcade, mais quand il était au Canada, Warcade.
Oui, mais pas juste au Canada, à travers le monde.
À travers le monde, hein,
c'est ça. Juste aux States qui était la même affaire pour tous ceux qui affrontaient la Heart Foundation aux États-Unis. Quand il arrive au Canada et au reste du monde, il était tout bébé
vexissant. C'était le retour de la Heart Foundation en 97.
Oui, oui. En fond, c'est le lendemain de WrestleMania 13. Oui,
exactement.
Après le heel turn de...
C'était Taker contre qui, Main Event? C'était Taker?
Taker contre Sid,
ouais. Sid, ouais, c'est ça. Okay.
Mais c'était le fameux match I Quit là, avec Stone Cold et Bret Hart. Oui,
le double turn, dans le fond.
Oui, exactement. Le meilleur double turn de l'histoire.
Évidemment, Bret, évidemment, c'est toujours le meilleur. Là.
Ben, c'est vrai. Ça crée Stone Cold Steve Austin, les gars les plus over du monde de la lutte.
En tout cas, on en reparlera.
Hey, quand c'est mérité, je louange n'importe qui, OK?
Surtout Brett.
Non, quand c'est n'importe qui. Fait que après ça, oui?
Attends.
Oh!
Après, on peut continuer.
C'est ça que tu fais-tu le berserker? Tant mieux. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, le gars, ça termine comme ça. Après SummerSlam 97, Bret Hart va être à rivalité avec le Patriot et Vader. Quand même curieux comme choix de rivalité.
Ouais.
Et évidemment, arrive le Screwjob de Montréal. Du côté de Taker et Sean, le coup de chaise accidentel de HBK sur Taker va ouvrir la porte au début de DX, au premier LNSL, à l'arrivée de Kane. Et le casquette match que Shawn Michaels s'est blessé au dos pour mettre fin à sa carrière la première fois.
Tout d'un bas.
Oui. Puis disons que il y a bien du stock juste pour un coup de chaise. Hein?
En 97, il y en a eu des affaires.
Ouais. Fait que c'est ça. Très bon combat. Un peu long, par exemple. Mais je pense que c'est. Il a duré 32 minutes, une affaire comme ça. Ouais. Donc l'affaire là-dedans, je pense que c'est à cause de ce qui est arrivé dans le match Austin contre Owen Hart. Le fait qu'ils ont perdu du temps à cause que la blessure a coupé short 5-6 minutes du match, je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont dit ben allez un peu plus long parce qu'on a du temps à perdre.
Ouais, puis tu sais, à part le premier match puis le match de Owen Hart, il n'y a pas tant de matchs qui ont duré longtemps, puis il n'y a pas tant de matchs que. Le show n'était pas tant relevé que ça, tant qu'à moi. Là. Je vais te donner ma note après, là, mais.
Ben moi, ma note est quand même haute, mais je sais pas, c'est. Disons qu'est-ce qui était très bon dans le PPV, était très, très, très bon.
Ouais.
Qu'est-ce qui était pas bon, il était pas si dégueulasse que ça. Là. À part un match là, que je vais dire tantôt qui était vraiment dégueulasse, là. Le reste était tout correct. Là.
Mais vas-y donc, t'en as le
voir. Ok, parfait. Fait que ma note du gala de ce soir, SummerSlam 97, est de 7 sur 10.
Ah, c'est pas si vrai.
Ben, c'est beaucoup quand même pour un match qui a un show qui a genre deux bons matchs, puis deux bons matchs.
Ben, c'est moi, j'ai la même note que toi.
Ben, en fait, oui.
7 sur 10, puis je me suis dit. Sûrement que lui, il va y aller presque un 8 parce que. Mais non. Tu te viens. Tu commences à faire s'agir.
C'est parce que ça dépend, là. C'est pas parce que les choses sont pas toutes pareilles, là.
Mais non, mais ça fait 2-3 fois qu'on a la même note, là. On dirait qu'on regarde le même show.
Ben, oui. C'est ça, hein? De l'aigle, alors. Fait que pour le match of the night, ben, le choix est facile, en tout cas pour moi.
Ouais. J'imagine que c'est Brett, hein.
Non, c'est Los Boricua. Non, évidemment, c'est Brett contre Taker. Et le worst match of the night, je vais te dire mes deux matchs, puis tu peux dire les deux tiens après.
Okay.
Le worst match of the night, évidemment, est le 8-man tag avec les Boricuas contre DOA. Après ça, il y avait le match de Pillman contre Goldust, mais je suis un peu plus clément pour ce match-là, vu que avec les situations qu'on connaît. Là. C'était moins long aussi.
On a le même worst match.
OK.
Mais on n'a pas le même meilleur match. Moi, je joue avec Austin contre Owen Hart.
Ah ouais, même avec la fin du brisage de coupe.
Ouais, j'ai vraiment plus aimé ce match-là.
Mais si ce match-là, il n'y a pas ce brisage de coupe, c'est un match normal là, qui finit avec une fin, là, je pense que c'est meilleur qu'un match de Brett.
Ouais, ouais. Mais bon,
c'est ça. Mais fait que c'est ça. Ouais, fait que SummerSlam 97 est terminé. Il nous reste seulement qu'un SummerSlam review, celui de 2005 qu'on va faire dans les prochaines semaines. On a encore le temps, là, fait qu'on n'est pas tout de suite. Là.
Non, il va y avoir deux autres shows au moins avant.
Minimum.
Ouais, minimum.
Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté notre review, mais c'est pas tout. Bougez pas.
Non.
On a deux segments qui s'en viennent. Le quiz version abrégée. Fait que c'est moi qui pose des questions à Marc seulement.
C'est tout le temps bon.
Ben oui. J'ai choix de réponse, mais en plus, je suis pas chien comme Dave.
Ouais.
Hey, référence numéro 4.
Entre deux chaises, on va-tu y aller entre deux, à prendre deux chaises, mais entre deux collections, on peut y aller tout de suite?
Je te laisse ton choix, mon homme.
OK, on va y aller avec le mien en premier.
Parfait, je n'ai pas le graphique.
Puis, moi, c'est dernièrement...
pas trop vite, là. Maintenant le graphique avant, là. C'est officiel, là.
Ben ouais, mais il va être là avec la musique, ça. C'est avant le montage, ça.
Ah, OK. Moi, je suis pas un tech, là, c'est pas.
Ben, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Récemment, j'essaie de me retaper toute la collection des Hasbro. Qu'il y en a quoi, 99, tu m'avais dit, je pense. Ils vont m'emmener le petit livret bientôt.
Incluant les mail-away, oui.
Ouais, je suis rendu, là, j'ai calculé 13, entre 13 ou 15, là, je pense. 15, ouais. Fait que c'est pas pire. J'ai commencé juste à collectionner, il y a 3 mois, j'ai commencé à collectionner. Et ma plus récente prise est monsieur Bam Bam Bigelow. Que j'ai reçu normal cette semaine. Avec un autre Hasbro que je vous montrerai un petit peu plus tard parce qu'il est spécial aussi. Ça, c'est deux Hasbro que j'avais jamais eu étant jeune. Donc Bam Bam Bigelow ou Bam Bam Gros Boudin, comme vous voulez.
Puis ouais, ça. Moi, mon compte est de 54 Hasbro.
Ouais, c'est bon, là.
Ben moi, ça fait longtemps que je collectionne. Là. Ça fait vraiment une couple d'années. J'ai pas on and off, là, évidemment. Là.
Il y a
des situations différentes pour chaque
monop. Il y en a des plus rares, puis il y en a qui coûtent genre 60$, 70$, 100$.
Il y en a qui coûtent 200$, là, les mocks, les beaux, là, ouais. les récents, là, ben, les récents. Les plus récents de la collection, évidemment.
On va commencer par les moins chers, puis on va monter éventuellement.
Mais souvent, les collections, là, ce qu'il faut faire, là, c'est acheter du monde que vous aimez. En premier.
Ouais, c'est ça.
C'est comme ça qu'on commence une collection. Moi, j'ai des affaires du monde que j'aime en premier, puis le reste, ben, ça suit.
Quand mon setup va être complété, je vous montrerai mes Tatanka.
C'est bon, parfait. On a déjà hâte.
J'en ai un peu trop.
Plus que n'importe qui, moi, je pense.
Ouais.
Je pense que le plus que Tatanka lui-même, je pense.
Penses-tu que je suis le fan numéro un de Tatanka?
À travers le monde, je pourrais pas te dire, mais au Québec, je suis sûr que oui. C'est pas rien.
Ça fait moi quelque chose de spécial.
Mettre ça, c'est mon résumé.
Oui, dans mon CV. Parfait.
Je vois sur votre CV que vous êtes un grand fan de Tatanka, c'est-tu vrai?
On pourrait aller vendre des cigarettes aux Indiens. Parfait.
Ah, quand même.
Oui, ben oui.
Ben, pour continuer dans la belle entre deux collections d'aujourd'hui,
oui. Moi,
je vais du côté des VHS.
Oh.
Et un beau VHS là, de l'époque, la belle époque de 1993 à la WWF. Et pour ceux qui aiment les couleurs, vous allez être servi pour cette pochette-là. Et ça s'appelle un vidéo, le Superstars de Music Video. Tu vas aimer la cover, Marc.
Ouais, c'est ça. Oh, wow!
On voit ici toutes les préférées de l'époque. Taker, Crush, Tatanka, Jim Duggan, Macho Man, Mr. Perfect, Big Boss Man et Bret Hart. Et comment c'est flash. Ça, c'est beau sur un bord de table.
Les chansons thèmes, c'est ça?
Oui. En fond, il y a 4 chansons thèmes. Il y a WrestleMania. Il y a SummerSlam Jam. Il y a USA de Jim Duggan. Et il y a Speaking from the Heart de Macho Man Randy Savage. Là-dessus, il y a des making of, des music videos, puis des behind-the-scenes footage aussi.
Wow!
Une VHS Coliseum Video, ouais. 1993.
Ah! C'est... Très beau, très belle prise, mon TJ.
Juste pour la pochette, là, ça va à peine.
Ah, mais c'est intéressant. Juste pour le behind the scenes, moi, j'aimerais savoir ça.
Ouais. Ça doit exister des rips de ça en DVD. Je sais te trouver ça.
Parfait.
Et ce qui conclut en deux collections, présentées par le CWC,
ouais.
Suivez-le sur Facebook. Mm-hmm. Fait que maintenant, un autre segment. On a beaucoup de segments. On est rendu fort après 2 ans.
Hein? On est rendu.
On est big in Japan.
Parlant de fort, c'est un quiz pour moi, c'est ça?
Oui, parlant de fort, c'est moi qui l'ai fait.
Là, j'ai un message encore, c'est un message du texte. C'est vrai que tu laisses gagner souvent tes dieux dans un quiz? Oui, parce que il a besoin pour son ego.
Oui, évidemment.
Tu sais, je fais semblant de perdre, mais des fois, je le chauffe un peu.
C'est la seule affaire que j'ai, s'il te plaît, ce moment-là.
OK, parfait.
C'est pas vrai, j'ai pas dit ça.
Mais non, t'as pas vu ça, t'as ça aussi.
Ah, ça, c'est vrai.
Sunny Day.
Wow. Disons que j'y pense.
Parfait.
C'est dur, hein, on habite au Québec. Hein.
J'aimerais ça le filmer. Peut-être pas, non.
Society Story, peut-être?
Je vais essayer de couper ça mon rêve.
J'essaierai, c'est pas grave. Coupe pas en photo de Sunny, par exemple. Bref, es-tu prêt pour le quiz, mon cher?
Je suis plus que prêt.
Imagine-toi donc qu'il y a un thème à mon quiz.
Ben oui.
C'est quoi le thème?
SummerSlam?
Oui, c'est original. Hein? Question numéro uno.
M'ennuie déjà de Dave.
Arrête.
Vas-y.
Question uno. Lequel de ces lutteurs le Big Boss Man n'a jamais affronté à SummerSlam? Est-ce que c'est A, AXA Jim Duggan? B, Coco Beware? C, and Nails? Ou D, The Mountie.
Coco Beware.
Mauvaise réponse. C'était Nails qui l'a jamais affronté à SummerSlam. Il l'avait affronté à Survivor Series. Coco Beware l'avait affronté à SummerSlam 88. Je crois qu'on l'a vu sur YouTube.
Ouais.
The Mountie, c'est en 91. Et Jim Duggan en 89. Well, ça commence mal, mais c'est pas grave. C'est juste une question sur 10. Question d'os. Qui étaient les challengers pour les titres par équipe des Natural Disasters à SummerSlam 92? Est-ce que c'est A, Money Inc., B, les Beverly Brothers, C, les Nasty Boys, ou D, Legion of Doom?
J'aurais tendance à dire les Nasty Boys.
Tendance, mais ça veut pas dire que c'est ça ta réponse. C'est ça ta réponse pour vrai?
Ouais, c'est ça.
Malheureusement, non. C'était les Beverly Brothers.
Ah, mon deuxième choix, c'était les Legion of Doom.
Ça, c'est au Rumble 92. LOD contre Chose de la Sœur. Je crois qu'on a reviewé sur YouTube.
T'es fatigué.
Et là, il faut le préciser, il faut le dire à nos fans. Ils en redemandent dans deux chaises de métal.
C'est vrai.
Question numéro 3. Qui était le challenger, 13? Qui était le challenger pour le championnat intercontinental de Monsieur Perfect à SummerSlam 1990?
Oh.
Est-ce que c'est A, Texas Tornado? B, Tito Santana? Arriba. C, Bret Littlemanheart? Ou D, Jake the Snake Roberts?
Je pense que je vais me tromper d'une année, mais c'est pas grave. Je vais dire Bret Hart.
Évidemment, tu tombes d'une année.
Pour vrai, hein, 191, hein?
Ouais, 90, c'est Texas Tornado.
Oh.
Question 4. Ah. Eh oui, au moins, t'es tout seul, c'est pas pire. C'est moins plate dans ça quand t'es tout seul.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que Mr. Perfect, le spécial, s'en vient finalement d'ici 2 semaines.
Oui!
Ouais.
À suivre, on a bien hâte. Qui est sorti, question 4. Qui est sorti de SummerSlam 93 avec le titre intercontinental? Est-ce que c'est A, Razor Ramon? B, Diesel? C, Mr. Perfect? Ou D, Shawn Michaels?
Je vais dire Shawn Michaels.
Et dans le quiz, c'est ta première bonne réponse.
Oui!
Il avait affronté Monsieur Perfect, justement.
Oui.
Un match qui avait, dans les semaines avant le pay-per-view, disait comme quoi que ça pourrait être un all-time great match. Malheureusement, non.
Non.
Ça c'était bon, mais c'était pas écœurant. Ouais. Bref.
Le match contre
le meilleur. Ouais, ben oui, c'est sûr. Question 5.
Oui.
À SummerSlam 94,
yes.
Shawn Michaels a super-kické Diesel par accident.
Ouais.
Combien de super-kicks Diesel a-t-il subi avant de faire son face-turn?
Je vais dire 3.
Et c'est une bonne réponse. 3 super kicks. Un épisode de Superstars, un à SummerSlam 94 et un à Survivor Series 94.
Un moment donné, après 3, c'est assez.
Ouais. Question 6.
Siété? À Summer...
Hein?
6, c'est quoi? C'est Siété?
Yes.
OK, yes. Chose que j'ai faite avant le podcast.
Je savais. SummerSlam 95, qui a affronté Hunter Stemsley? Est-ce que c'est A, 1-2-3 Kid? B, Bob Spark Plugoli? C, Aldo Montoya? Ou D, Marty Jannetty?
Je veux dire Boboli.
Tu es en feu, 3 en 3.
Oh, yes! Yeah.
Belle réponse. Ouais. Un match que Triple H avait gagné, évidemment. Ben, oui. Question 7. Lequel de ces matchs était l'opener de SummerSlam 96? Est-ce que c'est A, Goldust contre Mark Merrow? B, Akushi versus the 1-2-3 Kid? C, Owen Hart contre Sergio Vega? Ou D, les Smoking Guns contre les Body Donnas?
Je vais y aller avec le A, Goldust.
Malheureusement, mauvaise réponse, c'était Owen Hart contre Sergio Vega.
Ah, c'était 60 tag team.
Ouais.
Dommage.
Akushi et 1-2-3 Kid, c'était à SummerSlam 95, puis Smoking Guns, Body Donnas, c'est arrivé. En fond, à part Akushi contre le 1-2-3 Kid, les trois matchs à SummerSlam 96. Bref.
Ouais.
Question Ocho. À SummerSlam 99, quelle équipe ont gagné le Tag Team Turmoil? Est-ce que c'est A, Edge and Christian? B, les Holly Cousins? C, The Acolytes? Ou D, Big Boss Man et Ken Shamrock?
Les Acolytes.
Bonne réponse.
Ce pay-per-view-là, je me souviens quand même assez bien.
Ouais, il y avait ce match-là. Il y avait le match qu'on a parlé tantôt avec Mankind, Triple H et Austin. Un match underrated aussi avec Tess contre Shane McMahon.
Ouais, c'est vrai, c'est bon.
À SummerSlam 2000, question 9.
Ouais.
Dans quel type de combat se sont affrontés Chris Jericho et Chris Benoit? Est-ce que c'est A, Toiletry Falls? B, Cage Match? C, Submission Match? Ou D, Street Fight?
Submission Match.
La mauvaise réponse, c'était un Toiletry Falls.
Mais ils ont un Submission avant ou après, je pense, hein?
Je pense qu'ils ont bien eu leur combat d'échelle.
Ah ouais, fuck, j'étais sûr, c'était ça.
Ils ont peut-être eu un, ben, il me semble qu'ils ont. Je pense que t'as l'air parce qu'il y avait un SmackDown à un moment donné.
Ouais, c'est ça, ouais.
Bref, quand même 4 en 9 à date.
Ouais.
Ouais, 50% peut-être, c'est la prochaine question. Question ouais. 10. À SummerSlam 2001, qui était dans le coin de Rhino dans son match contre Chris Jericho? Là, j'ai pas le choix de répondre.
Oh. Pas sûr. Je vais...
Quand je vais dire la réponse, ça va être ah, ben oui.
Ouais, c'est ça. Hein. J'ai comme deux noms en tête, mais c'est sûr. Ça ferait pas de sens. Ah, c'est qui Rhino et tout dans ce temps-là. On va dire Tommy Dreamer.
C'est ouais, méchant guest. C'était quoi ton autre guest, Plafon?
Lance Storm.
Et malheureusement, c'est aucun de ces deux-là, c'était une femme.
Don Mary?
Non.
Mais voyons, il n'y a pas de
même. C'était Stephanie McMahon.
Ah, parce que c'était la base de la ECW. Hein?
Ouais, là, dans l'Invasion, là, c'était. Ben, Jericho, c'est sa grande rivalité depuis 3 ans avec Gail et Jericho.
Ouais,
là,
c'est
quand ils sont ensemble.
Je sais pas pourquoi j'avais. Ouais, Lance Storm, je me suis dit que ça ne marcherait pas parce qu'il serait plus avec Jericho.
Ouais. Ben, ouais, quand ouais. même.
C'est beau.
Well, c'est ce qui conclut le quiz. 4 en 10. Ça n'aurait pas été payé. Tu n'aurais pas avoir 0.
Ouais.
Au moins, quand t'es contre toi-même, t'as moins de pression.
Je suis quand même très content.
Ben oui, il faut être content dans la vie.
Alors, on va se calmer un petit peu.
Ben là, avoir un positive outlook. C'est pour ça que t'es des heels, moi je suis le face peut-être.
Ça, c'est ce que tu penses, mais tout le monde sait, tout le monde qui écoute le podcast, les auditeurs me l'écrit sur la message de texte, ils arrêtent pas cet incite. C'est
Hockey Jay Hill. Hockey qui veut dire, ils savent très bien que c'est toi. C'est pas moi, certain.
Ouais, là, il m'a demandé, va-tu avoir des chandelles de deux chaises de métal avec juste le nom de Mark en arrière, comme quoi t'es le babyface? Ça sent bien, ce sera pas long.
Tu vas ton propre t-shirt?
Non. J'aurais dit que vu que je suis face, je ferais pas ça.
T'es pas face. On est pas dans, on dirait une foule bon. Des années 2000 de ce qu'il prend pour les heels. Puis...
on va faire un sondage sur la page Facebook c'est la fin de semaine pour savoir qui c'est qui est le heel, qui c'est qui est le face.
On va voir. Sondage léger.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça, entre deux collections, le quiz de SummerSlam 97 sont terminés.
Ouais.
Fait que Mark en a parlé un peu tantôt. Évidemment, on a M. Perfect qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans deux semaines, par
contre. Ouais, maximum.
Ouais. Puis avant ça, on a un podcast, on va faire un weekly avec évidemment nos impressions sur le pay-per-view Money in the Bank qui va avoir lieu. Les résultats, on va tout vous dire ça. Ça va être bien fun de checker ça avec vous autres, dire qu'est-ce qu'on a aimé du pay-per-view, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé.
Oui, puis là, on a un meeting qui s'en vient, là, justement, parce qu'on va écouter Money in the Bank en fin de semaine. On a un meeting, puis il y a des nouvelles affaires qui s'en viennent dans le podcast. On va vous tenir à l'affût de ça, parce que, tu sais, il faut évoluer, hein, d'année en année, pour améliorer le produit.
Oui, et comment on peut nous suivre, Marc?
Sur Apple Podcasts, Spotify, Podbean, YouTube et Balado Québec.
Et aussi sur les plateformes social media aussi.
Oui, sur Instagram, Facebook et Twitter.
Oui, vous suivez aussi la CWC sur Facebook et le commanditaire Gourou. Ouais. La boisson organique biologique québécoise depuis 1997 à vendre partout, sauf évidemment chez Pit et chez Yellow.
Puis, si jamais ça vous tente et vous écoutez le podcast samedi, parce qu'on est samedi, ben demain il y a l'événement avec Jacques Cougeau dans la LWA, dans la Firehouse. Fait que si ça vous tente d'aller voir Jacques, ben. Gantez-vous. Envoyez un petit message à Firestorm, puis il va vous dire comment participer à ça.
Il va vous arranger ça.
Ouais.
Fait que c'est ça, Marc, un mot de la fin?
Oui, pas pire de pay-per-view. Je l'ai aimé correct. Je m'attendais à plus, mais là, après ça, avec le 2005, on tombe dans une ère plus moderne. Fait que j'ai bien hâte de voir. J'ai hâte de voir les autres matchs parce que je me souviens très bien de Hogan contre Shawn Michaels, entre autres, avec les super bombes de Michaels, qu'on vous en parlera bientôt. Il y a eu plein d'histoires entourant ce match-là aussi.
Ouais.
Fait que, ouais, c'est ça. Pas mal ça.
C'est parfait. Merci, Marc. Merci à vous tous d'avoir écouté le podcast et de nous encourager tout le temps.
Ouais.
Et c'est ça. Merci beaucoup.
Dans le fond, le mot de la fin, on va le dire, mettez la cloche sur YouTube, vous allez savoir quand il y a une nouvelle vidéo, ça va vous dire quand le podcast sort, mais habituellement, pretty much, c'est tout le temps le samedi en soirée, fait que tu sais, si jamais, on sait que le samedi soir, le monde est quand même occupé, mais sinon, le dimanche, c'est une belle journée pour écouter le podcast.
Oui, avant Money in the Bank, peut-être.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça, merci beaucoup, au nom de Marc et de moi-même, bonne soirée. Et ne pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Appelle-moi Sonny.